When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Il était au parc Astérix à la place. Donc
c'est,
un peu...
c'est vrai? Non.
Non, c'est vrai.
Sérieux?
Ouais, je te jure. Ouais, c'était pas loin. Du coup, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va au parc Astérix parce que c'était avec une navette. C'était pas loin.
Putain, le grand écart.
Et je vous emmerde si vous me jugez. Le plus dur que j'ai fait, c'était la trace du hurrah. Et je n'ai pas honte.
D'accord. Ouais, ouais, alors moi qui suis pas allé au parc Astérix depuis très longtemps, c'est niveau peur, c'est quoi en fait?
Ça va.
Ça va.
C'est genre les poupées à Disneyland à peu près.
T'as tout fait, c'est le truc que t'as ressenti qui était le plus dur ou...
Non, c'est celui qui était le plus haut sur leur échelle de merde là, mais leur échelle est pas du tout. Je trouve qu'elle est pas très juste. T'as vraiment un package de plein d'attractions qui sont toutes dans la même case. En fait, il y a clairement des niveaux différents. Et dans la même, t'en as un où t'as l'impression que les gens sont en train de mourir et l'autre où tu dis, bon, bah ça, c'est un manège normal quoi. Mais à la fin de la journée, le mieux, c'est que la pote pour qui on était pour l'anniversaire, elle voulait absolument faire, j'ai oublié le nom de ce truc, mais les rails sont bleus. Voilà, ce
sera l'information
que
vous aurez.
Non, pas celui-là. Un truc plus normal, ouais, pensez un peu nous amadouer. On a un peu hésité, on a fait celle d'à côté en se disant, on ira à celle d'après et. Le manège s'est bloqué. Donc en fait, on aurait clairement dû être dans le wagon qui était bloqué, mais genre pendant 45 minutes en plein soleil.
Oh la vache.
Donc on a évité quand même une fin de journée sympa.
Bon, on est ravis de connaître les aventures de Geoffrey, mais la vraie aventure au cinéma, c'est bien sûr Indiana Jones, et qui revient avec le cinquième volet, le cadran de la destinée, titre absolument incroyable, on sera tous d'accord là-dessus.
Non, trop de merde, c'est vrai.
Moi, j'avais un peu envie de savoir, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire autour d'Indiana Jones pour la sortie du 5. Est-ce que finalement, l'idée la plus simple, c'est pas qu'on revienne sur nos opus préférés de la saga? Parce que je sais qu'on est jamais d'accord là-dessus. Toi, Geoffrey, je crois que c'est le temple maudit, ton préféré.
Moi, c'est le deuxième, mon préféré, mais surtout, je m'inquiète parce que Judith n'aime pas Indiana Jones. Donc, de quel épisode va-t-elle pouvoir parler?
N'importe quoi. C'est faux que j'aime pas Indiana Jones. Juste, je ne vénère pas cette saga. Voilà, j'y suis attachée comme tout le monde. Je trouve juste pas forcément que ce sont des chefs-d'œuvre. Malgré tout, j'ai quand même a priori une préférence pour le 3. Et je crois que plus ça va et plus le 5 se distingue aussi dans mon cœur.
Mmh. Donc t'es un peu l'alien d'Indiana Jones 4 en fait.
Oui, exactement. Voilà. J'aurais pas trouvé meilleure définition. C'est moi.
C'est une insulte ou pas? Je ne sais pas quoi répondre.
Et toi Mathieu, c'est quoi ton Indiana Jones préféré?
En vrai, moi je crois que c'est aussi le 2 pour les avoir revus récemment. Mais après, je pense que c'est aussi le passage du 1 au 2 quand tu les vois à la suite. Tu passes tellement de. Du petit hommage gentil quand même, tu vois, un peu sympa, le méga rush d'adrénaline de 1h30, enfin de 2h, que vraiment, j'adore ça.
Ouais. Ouais, pour moi, tu vois, plus le temps passe, plus je me dis, mais le 1 est une sorte de perfection
mais
de
c'est pas négatif,
faux film B, qui fait que vraiment, pour moi, le 1 reste peut-être encore le meilleur avec le 3, ça se joue un petit peu.
Et moi, le 1, c'est vraiment celui que j'ai le moins envie de revoir. De la trilogie, c'est sûr et certain, c'est celui que j'aime le moins. Et... Bon, je vais pas dire que j'ai envie de revoir le 4 plus que le 1, parce que là c'est un peu bizarre dans ma tête de dire ça, mais clairement le 5 j'ai pas très envie de le revoir, donc je crois que vraiment le 1 est peut-être le juste milieu, mais le deuxième est clairement tout en haut de la liste, c'est celui que je revois avec le plus de plaisir, et à chaque fois que je le revois je me dis mais quelle leçon de cinéma quoi, rien que les 10 premières minutes je me dis mais c'est du cinéma, y a rien à jeter, et tout est parfaitement timé.
Bon, en même temps, c'est ce que je me dis aussi, c'est que c'est peut-être pas forcément le plus intéressant de faire un bête classement ou de se dire c'est quoi le meilleur Indiana Jones, parce que finalement ils sont tous intéressants, et je pense même que là le 5 c'est un film qui va pas mal diviser à sa sortie, mais c'est un film qui est clairement intéressant à analyser, Et je me disais que c'était peut-être plus pertinent de revenir sur la saga et ce qu'elle a apporté aussi au cinéma de divertissement via ses motifs les plus importants. Donc, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais ça me paraît être le plus intéressant. Surtout qu'on est plusieurs à défendre le 4 aussi ici, ce qui est pas forcément si commun que ça.
Enfin, ne pas détester. Quelqu'un déteste le 4 ici ou pas ?
Non.
Non.
En fait, on est tous du positif et beaucoup de négatif. Quoi.
Oui, voilà.
Bon, moi, je pense qu'il y a plus de positif que de négatif.
À part Mathieu.
Moi, j'aime ce film. Voilà.
Bon, bah, très bien. Mais du coup, peut-être, bah, je sais pas, revenir peut-être à la toute base, finalement, de ce qui fait aussi de la saga un produit aussi intéressant de son époque aussi. C'est peut-être déjà la base, le personnage d'Indiana Jones, c'est ce qu'il représente pour le cinéma d'aventure.
Oui.
Non,
en fait, moi, ce que je trouve un peu intéressant avec le personnage, c'est qu'il n'est pas très écrit et il est un peu abstrait, au moins dans les deux premiers, surtout dans le deuxième. Et tu sais pas grand chose de lui et tu t'en fous un peu. À partir du troisième, ils essaient un peu de faire la psychologie avec le papa et tout ça. Mais en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent, tu sais pas grand chose de lui à part juste les traits de l'archétype qu'il est. Et c'est largement suffisant. Et c'est ça que j'aime bien dans le personnage, c'est qu'ils essaient pas de forcer le trait sur qui il est. C'est vraiment. C'est un professeur d'archéologie, c'est un aventurier, il est capable de tout des deux côtés, tout le monde l'aime, il est un peu Harrison Ford et voilà. Par extension, du coup, tu projettes tout ce que tu veux dessus, et je pense que c'est un peu la force et la simplicité du personnage.
Là, je trouve ça assez malin dans le tout premier. Finalement, la première interaction que t'as avec, enfin, la première interaction qui n'est pas vraiment dans l'action que t'as avec lui, c'est de savoir que ses élèves l'adorent au point de se mettre le I love you sur leurs paupières, là. Et c'est marrant parce que quand je les ai revus, je l'ai revu avec une amie qui est aussi hyper fan de la saga, et on était persuadé que cette blague du I love you sur les paupières, c'est arrivé dans le 3 ou le 4. Parce que c'était établi en fait que c'était vraiment. Mais non, en fait, dès le tout début, au premier, il est caractérisé comme. C'est déjà une légende en fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est assez fort comment ils arrivent à faire passer ça en quelques scènes. C'est très impressionnant.
Ouais. Mais c'est ça que je trouve un peu fou avec cette saga, c'est que tu as vraiment l'impression que le personnage, il est iconique avant même d'exister vraiment en tant que personnage, effectivement écrit avec des failles, des subtilités, différentes couches, etc. Et c'est d'abord une légende, effectivement, et ensuite ça devient Indiana Jones, celle qu'on connaît maintenant. Et surtout qu'en plus ça va, plus la saga apporte, je trouve, vraiment beaucoup de pièces et de détails intéressants à ce personnage et le développe de manière, moi je trouve, assez comment dire, justifiée, assez intéressante. Mais ouais, on commence avec une image pour ensuite aller vers la personne, quoi.
Oui, et c'est de ça dont c'est parti, puisque à la base, donc, le projet, c'était vraiment George Lucas qui l'avait développé en voulant que Spielberg le réalise. Et lui, ça venait de ça. Il sortait de Star Wars et il avait cette même idée de cette inspiration des récits pulp qui ont fait son enfance et son adolescence, et de faire avant tout un personnage où c'était avant tout la gueule, c'était le look qui comptait presque plus que ce qu'il était à l'intérieur, entre guillemets. Et c'est vraiment ça qu'il a très vite développé. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les premières moutures de scénario, Indiana Jones a vraiment évolué. Déjà, il s'appelait Indiana Smith à la base, mais tu avais cette même idée d'un nom assez commun, d'un personnage qui s'efface un peu derrière justement cette légende-là. Et il voulait en faire justement un pur chasseur de primes, en fait. Et ça, je pense qu'il y avait aussi Han Solo derrière qui faisait que, une fois qu'Harrison Ford a été casté, ça a un peu évolué dans l'écriture. Mais il voulait aussi ce contraste-là. Et je pense que c'est aussi ce qui le rend le personnage intéressant, c'est que c'est un personnage qui est fait de contraste, à la fois ce côté pilleur de tombe, prof d'université, qui dans le 1, justement, s'approche très très vite. Et on n'y croit pas, d'ailleurs, au début, qu'il puisse être prof d'université qui récupère des trucs pour le musée. Et en même temps, t'as aussi ce truc que j'aime beaucoup, que c'est un héros qui est ultra charismatique, mais dès le début du 1, alors qu'on te le montre avec le visage très sombre, qu'il est très dangereux, qu'il maîtrise tout mieux que tout le monde, même là, il n'est pas infaillible et il est toujours en danger. Et c'est, je pense, aussi un des trucs qui a vraiment fait le succès du personnage, c'est qu'il n'est pas immortel, il ne fait pas super-héros, il est toujours en galère quand même.
Non, c'est vrai que je crois que c'est un peu leur intention qu'ils avaient, littéralement, de ne pas avoir un héros qui gagne toujours. Et en même temps, quand tu vois le film, tu dis, bah, le mec est quand même increvable, quoi. Je veux dire, dans le premier, Alfred Molina, il se fait éclater la gueule, lui, il manque de se faire tuer 4 fois, et les Indiens lui tirent dessus, il se prend pas une flèche. Donc c'est marrant de te dire, il voulait un héros qui n'est pas infaillible, et en même temps, bah, la réalité, c'est qu'il se sort de situations absurdes dès le début. Donc en fait.
Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le 1, j'aime beaucoup au début de ce truc-là, quand Alfred Molina arrive à passer de l'autre côté et qu'il veut pas lui donner le fouet et qu'il lui dit on échange, machin, il donne pas le fouet. Indiana Jones saute une espèce de ponton alors qu'il y a la porte qui est en train de se fermer, mais à ce moment-là, tu te dis, bon, déjà, il a réussi à sauter au-dessus du vide, il s'en sort, et en fait, non, parce qu'il y a l'espèce de liane de racine qui se tord et tout, et là, à ce moment-là, tu vois déjà son visage un peu comique qui arrive à ce moment-là, et tu te dis, ok, on sort déjà du côté purement ultra sérieux que le tout début du film laisse supposer.
Il s'en sort effectivement aussi toujours de ces situations, mais il donne vraiment le sentiment qu'il maîtrise pas tout, en fait, qu'il y a plein de choses, en fait, c'est plus des coups de chance que vraiment lui qui veut réussir, enfin, qui réussit à s'en sortir de manière, voilà, maîtrisée et calculée, quoi. Donc c'est aussi un peu le côté marrant et faillible du personnage qui perdure malgré tout.
Mais c'est ça que je préfère, je crois, dans le deuxième, c'est que t'as vraiment... plus que dans les autres, c'est le seul qui ne passe pas par la fac et qui ne montre pas sa vie civile. T'as l'impression qu'en fait, tout le film est un accident qui commence comme un accident et qui est une suite ininterrompue d'accidents qui s'enchaînent après un autre accident. Et le fait qu'il saute par la fenêtre, qu'il saute d'un avion, c'est vraiment le YOLO total. C'est en fait, on part à l'aventure alors que c'était une scène d'intro. En fait, c'est un peu comme si la scène d'intro de chaque Indiana Jones était le début réel de l'aventure et pas une pastille pré-intro, alors que c'est le cas dans tous les autres. Et là, c'est vraiment en fait... qu'est-ce qui se passe si la scène d'intro déraille au point où, en fait, après, c'est le bordel total et c'est une aventure totale? Ça, j'ai aimé dans le deuxième, c'est que t'as vraiment, du coup, la glissade sans fin jusqu'au bout de... en fait, le mec, il pensait juste faire une petite mission, et en fait, c'est l'aventure de sa vie, quoi.
Il y a une scène que j'aime beaucoup dans le 3, et qui est assez anecdotique, mais je trouve résume vraiment bien le personnage, c'est quand ils sortent du dirigeable, ils vont dans l'avion, et là, t'as Sean Connery qui demande à Indiana Jones, est-ce que tu sais piloter un avion? Et lui, il dit piloter oui, atterrir non. Mmh. Et c'est exactement ça, en fait, c'est-à-dire que... c'est la en fait, Indiana Jones, c'est la recette parfaite de ce que c'est que le divertissement d'aventure américain, c'est-à-dire un bon 60% de je sais ce que je fais, pardon, et un bon 40% de on verra bien, mais ça va être marrant, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et ils arrivent à tenir, je trouve, ce genre d'équilibre sur les 5 films, avec quelques, évidemment, petites variations en route, quoi, voilà. Parce que oui, dans le 4, il y a un peu plus de chance que de maîtrise parfois. mais c'est assez. Le fait qu'ils arrivent à tenir ça dans le personnage et tous les trucs qu'il y a eu après Indiana Jones qui s'en sont inspirés, ils jouent cette carte-là au point d'en venir caricaturaux. Je pense à Nathan Drake dans Uncharted, où vraiment c'est ça, mais quasiment en temps réel tout le temps, quoi. Ouais. C'est comme s'ils faisaient des statistiques de à quel point il doit avoir du bol, à quel point il doit pas en avoir. C'est incroyable.
C'est genre que Nathan Drake a souvent pas de bol du tout.
Ah, hein, oui, c'est ça. C'est genre, il a vraiment pas de chance dans sa chance, tu vois. Il va toujours se péter la gueule d'un truc, mais il va toujours réussir à s'en sortir, quoi.
Oui, puis là, si Indiana Jones il tombe d'une marche, Nathan Drake fait tomber de montagne quand il part d'un endroit. Donc c'est ça la différence aussi, l'échelle de la folie, quoi.
Ce qui est marrant, parce que du coup ça fait vraiment partie des éléments qui ont, justement, tu parlais de stats, mais ça a été vraiment un pourcentage qui a été compliqué pour Lucas et Spielberg à trouver quand ils écrivaient la première mouture. Et il y avait tout ce truc du c'est quoi les attributs du personnage, et il y avait le fouet qui est venu assez vite et qui voulait garder le flingue, pareil, en se disant il sait plutôt bien maîtriser l'arme à feu, mais très vite ils se sont dit est-ce qu'on en fait un expert en karaté. Et pendant un temps, c'est resté cette idée-là. Et en fait, heureusement qu'ils l'ont dégagé, parce qu'ils se sont dit, en fait, ça suffit amplement, le côté flingue et fouet. Il lui faut un attribut et il faut qu'il soit... il sait se battre, mais il galère un peu plus quand même.
D'ailleurs, c'est aussi intéressant dans cette collaboration, c'est que quand tu vois beaucoup d'interviews de Spielberg et de Lucas, etc., ils passent leur temps un peu à se renvoyer la balle sur qui est l'idée de qui, en fait. Et t'as un peu cette idée, un peu, ouais, voilà, de la recherche, de la formule, de l'aventure chimiquement pure, un peu. Il y a l'époque de la fameuse scène du frigo dans le 4, où tout le monde leur était tombé dessus en disant que c'était complètement improbable. Je crois que c'est Spielberg qui avait dit je prends le blâme parce que c'était mon idée et je trouve ça marrant, et je crois que Lucas ensuite est arrivé pour dire non mais en fait il dit ça pour me protéger et tout, mais vraiment c'est hyper drôle, quoi.
Je pense que Spielberg a dit ça pour ensuite dire par contre les aliens c'est pas moi.
Ouais. Mais tu sens que des fois ça devait, parfois quand t'as des retours de comment s'est passée l'écriture, etc., et le nombre de réécriture qu'il y a sur certains films, notamment le 3 par exemple, tu sens qu'il y a vraiment cette recherche vraiment, c'est assez scientifique, quoi. C'est qu'est-ce qui pourrait se passer exactement pour que ce soit l'aventure dans un sens quasiment pur.
Et c'est intéressant quand Laurence Kasdan il parle de comment il a écrit le premier, et dit en fait quand je suis arrivé, Spielberg et Lucas avaient donc déjà pas mal monté le truc, mais ils avaient vraiment les set pieces, les morceaux d'action, il fallait qu'ils fassent ci et ça, et en fait ils attendaient que je rabiboche tout et que je relis. En fait c'est un peu comme ça que les Missions Impossibles sont faites aujourd'hui, c'est que les mecs ils ont les visions de scènes d'action et tout, et après ils attendent que quelqu'un essaye de rafistoler. Et je pense que dans le premier et dans les Indiana Jones c'est vraiment bien fait, parce que tu te dis pas que le film est juste conçu autour des scènes d'action, t'as l'impression qu'il y a quand même un bon cheminement, que le personnage s'écrive un petit peu comme dans l'action, ça qui marche bien et qui est peut-être l'équilibre un peu magique qu'on a dans ce film là et qu'on perd un peu au fur et à mesure de la saga, par exemple.
Bah là où je serais pas totalement d'accord, parce que effectivement je trouve que même par rapport aux deux premiers, surtout à partir du 3, t'as, en ramenant son père et puis après vraiment en prenant en compte la vieillesse d'Harrison Ford aussi sur le 4 et le 5, enfin je trouve que c'est un personnage qui passe des caps, et c'est aussi pour ça qu'il est devenu aussi plaisant à suivre dans ses aventures plus tardives, parce qu'il n'est pas juste resté une figure figée, en fait il a toujours un peu évolué, il a quand même passé des caps dans point de vue intime.
Ouais, je crois que c'est là que ça m'intéresse moins, à part du moment où tu commences à trop le creuser, tu vois, le fait qu'il ait un complexe de papa, bon c'est intéressant, mais bon, le truc tu le comprends très vite dans le 3, je trouve que c'est pas là, c'est intéressant parce que le buddy movie Sean Connery et Sean Ford il marche bien, il y a des scènes très drôles, hein, j'aime bien le 3, mais le fait de développer le côté papa, le fait que dans le 4 il ait un putain de fils, le fait que dans le 5 il ait une filleule, je lui dis mais ne faites pas de 6, hein. Franchement c'est qui va sortir du chapeau familial, quoi.
Je pense que c'est fini là, mais avec Ford, bah, pour le coup je trouve que c'est là que le 5 réussit vraiment son coup, même quand il essaye de se distancer un peu des autres, il y a ce moment où il dégage en une réplique l'héritage du 4, mais en fait c'est très bien trouvé, parce qu'on retrouve vraiment cette idée de, ouais, comme tu dis, il évolue quoi au fur et à mesure des films, et vraiment dans le dernier, c'est moins son film que celui de Phoebe Waller-Bridge finalement, et c'est parfois assez touchant, je trouve.
Moi j'aime bien la manière justement dont ils osent le présenter comme vraiment un papy ronchon qui ressemble tout sauf à un grand aventurier au début et à la fin, et vraiment c'est juste le voisin qui fait chier les jeunes qui font la fête et tout, qui a zéro prestance, qui est vraiment juste le gros ronchon quoi, et j'aime bien qu'ils aillent vers ça parce que c'est hyper cohérent avec le personnage qu'on connaît, en tout cas les failles du personnage qu'on connaissait avant, et du coup là ils osent en faire le héros, même si évidemment il va pas rester comme ça tout le long du film, mais je sais pas, je trouve ça touchant en fait, la manière dont ils osent montrer un Indiana Jones vieux qui est pas forcément hyper, enfin qui fait pas rêver, mais qui est dans la logique de celui qu'on connaissait quoi.
Et puis je trouve que c'est un peu poussé à l'extrême, le genre d'ironie qu'il y a toujours autour du personnage dans l'écriture, de ce qu'il fait c'est pas de l'archéologie, il passe son temps lui-même à le dire, alors qu'en fait ça allait, enfin tu vois ce que je veux dire, t'as cette scène hyper drôle où je crois que c'est au début du 3, il dit à ses élèves oui une croix ça marque jamais l'endroit, et littéralement la scène d'après il y a une croix, il fait putain mais et il y a pareil, il y a un autre moment je sais plus où, je crois même qu'ils le font d'un film ou un autre où il dit que l'archéologie ça se fait en bibliothèque, et c'est dans le 4 il explose une bibliothèque avec Shia LaBeouf et ça,
et il passe en moto dedans,
sa moto, et il y a un mec qui lui pose une question et il fait sortez,
oui.
Sortez de la bibliothèque.
Il y a ce genre de paradoxe entre la vraie vie et l'aventure qu'il incarne tout le temps en fait, et encore une fois qu'il y a une forme d'équilibre qui est assez amusant et qui culmine pas mal, je trouve qu'ils en font quelque chose d'assez beau dans le 5.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Est-ce que c'est pas ça aussi, justement, on parlait donc de ce côté chimiquement pur, mais à la base d'Indiana Jones, t'as vraiment cette méthodologie qui a été pensée par à la fois donc, les deux têtes pensantes, George Lucas et Spielberg, en tant que scénariste, producteur et réalisateur. Qu'est-ce qui a fait aussi que, justement, t'as ce truc-là, en fait, de l'aventure qui semble contrasté, mais qui fonctionne aussi bien.
En regardant les dates, je me dis, mais en fait, vraiment, Indiana Jones, c'est d'abord George Lucas, quoi. Spielberg est arrivé 4 ans après, il a fait son truc dans son coin, il s'est dit, ok, ça va pas le faire, je mets sur autre chose. À l'époque, il voulait faire Flash Gordon, il y avait plein de projets, il s'est mis sur Star Wars. Après, la deuxième personne arrivée, c'est Philip Kaufman, qui a essayé de faire un traitement avec lui. Et après, Spielberg est arrivé, les vacances à Hawaï, le fameux truc, Jean-Victor James Bond. Ah ben moi, j'ai un mec qui s'appelle Indiana Smith et tout. Et après, il y a eu Laurence Kasdan qui est arrivé. Et je me dis, en fait, c'est marrant, cette idée, vraiment, à l'origine, c'est George Lucas. George Lucas qui est aujourd'hui souvent un peu bâché par rapport à Star Wars et tout un tas de trucs. Et je me dis, mais en fait, Indiana Jones, c'est vraiment son bébé à lui. Et alors, certes, après, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été rectifiés, qui ont été retirés, mais Spielberg aussi voulait des trucs what the fuck. Dans le premier Indiana Jones, le méchant, il voulait qu'il ait un bras métallique à la Terminator, tu vois. Donc c'est peut-être bien qu'il l'ait pas. Le nazi était peut-être suffisant comme ça.
Ouais, pourquoi pas.
Ah ouais, ouais.
Non, mais c'est juste que, enfin, tu vois, je me dis, George Lucas, ok, c'est cool qu'il ait eu cette idée, mais c'est juste que, bon, moi n'étant pas méga fan de Star Wars, je doute que Lucas, il aurait fait un Indiana Jones, aussi cool s'il n'y avait pas eu Spielberg dans l'équation quand même. Enfin, évidemment que Spielberg apporte quelque chose, mais moi je ressens beaucoup plus du Spielberg en voyant Indiana Jones.
Moi je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes quand même. C'est tout ce qu'on parle sur l'iconisation et la capacité de créer des trucs vraiment qui restent dans la pop culture, qui est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Lucas pour le coup.
Oui.
Ça vient vraiment de lui, et ensuite la mise en scène complètement démentielle.
Oui, cette idée de prendre
Spielberg,
des choses
quoi.
Qui existent, d'en faire vraiment le mix parfait entre la nostalgie, recréer une histoire vraiment vieille comme le monde, et d'en faire quelque chose d'assez pur. Tu vois, je trouve que dans l'écriture d'Indiana Jones que j'ai mis au début, c'est vraiment la simplicité, la pureté du personnage avec pas beaucoup de fioritures familiales et tout ça, je trouve que ça fait très Lucas, c'est vraiment voilà l'archétype du héros avec un grand H, et tu vas t'en contenter parce que c'est tout ce dont tu as besoin pour un film comme ça.
Ouais, et en même temps quand on sait que Star Wars il a mis des années et des années à le réécrire, à l'épurer avec le conseil de plein de personnes autour de lui, et que malheureusement c'est un peu ce qu'il a pas trop pu avoir sur la prélogie par la suite, là où je pense que Spielberg apporte vraiment un truc, c'est que là où Lucas est vraiment celui qui effectivement maîtrise peut-être mieux les codes des récits pulp qui lui servent de référent et comment il les remixe derrière, je pense que ce que Spielberg apporte, c'est l'efficacité qui est celle des films B dont il s'inspire, donc de tous ces, notamment de ces séries américains des années 30 à 50, qui pour la plupart reposaient en plus sur des gros set-pieces avec à chaque semaine t'allais au cinéma pour voir un nouveau truc qui se terminait sur un cliffhanger pour t'amener à venir la semaine suivante au cinéma. Et je pense que ça, c'est un truc que vraiment qui définit le cinéma de Spielberg. Spielberg plus que celui de Lucas, c'est vraiment cette façon de toujours t'exciter et toutes les 10 minutes de relancer quelque chose. Et tous ceux qui aujourd'hui s'estiment héritiers de Spielberg, je pense notamment à J.J. Abrams, enfin, c'est des gens qui disent, en fait, ils ont repris cette méthode-là, en fait, en disant, mon récit, il faut que toutes les 10 minutes, il se passe un truc qui est un nouvel élément de suspense qui pourrait être un cliffhanger si je faisais une série et que je m'arrêtais là et que ça redémarre constamment le récit. Et en particulier, les aventuriers fonctionnent extrêmement bien sur cette façon de ne jamais s'arrêter.
Il y a un truc que je trouve très drôle dans Le Temple Maudit aussi qui fait que, encore plus, je me dis que c'est un peu l'épisode, le sommet, c'est que quand ils ont vu le premier montage, Lucas et Spielberg, à la fin, ils sont tous les deux dit « Ok, ça va beaucoup trop vite ». Il durait 1h55, ils se sont dit « Il n'y a pas d'air, en fait, les gens ne respirent pas, c'est pas possible. Donc ils ont rajouté des scènes, genre des plans larges sur le château, le palais et tout ça, pour ralentir le rythme, tellement le truc allait trop rapidement. Et c'est marrant de te dire, effectivement, je me doute bien que des deux côtés, Lucas et Spielberg ont apporté des trucs en termes de vitesse, de mythologie et tout, et c'est marrant de te dire, à un moment, tous les deux se regardent en disant « Ok, on n'était pas d'accord sur le manoir hanté qu'on a failli faire, on n'est pas d'accord sur le Monkey King, tous les trucs qu'ils ont abandonnés, mais le film va trop vite. » Du coup, c'est marrant de se dire, en fait, au sommet de la pyramide, ils arrivent à faire un film en disant « En fait, là, il faut qu'on redescende un petit peu, les gars. »
Mais ce qui est marrant, parce que tu vois, c'est pousser encore plus loin la logique du 1, où la logique du 1, c'était que Spielberg ressortait de l'expérience catastrophique en termes de tournage des Dents de la Mer qui avait dépassé son budget. Tout le monde pensait que ça allait être un naufrage, littéralement. Enfin, c'était l'enfer. Et il enchaînait avec 1941 qui lui aussi avait dépassé son budget. Et à ce moment-là, Spielberg avait peur pour sa carrière en se disant plus personne ne va me confier un film et des gros films.
S'il avait su.
Mais Indiana Jones, et lui, il est persuadé que Les Aventuriers a vraiment joué là-dessus sur la suite de sa carrière parce qu'il s'était donné comme défi de finir le film en avance de son planning qui était à peu près 2 mois et demi de tournage. Et il a fini le film avec 11 jours d'avance sur le planning parce qu'il ne regardait pas les rushs. Donc ils ont tourné notamment la séquence de course-poursuite, tu vois, que tout le monde connaît par cœur. Ils l'ont tourné sur 4 semaines et pendant les 4 semaines, il n'a pas regardé les rushs. Donc il savait même pas si ce qui tournait était bon, quoi. Tu sais, il fallait vraiment le saut de la foi le plus total. Enfin, tu te dis, mais personne ferait un truc pareil. Et vraiment, c'était au stade où non seulement c'est le seul film que Spielberg a entièrement storyboardé de sa carrière, alors qu'aujourd'hui il préfère au contraire arriver un peu sur le plateau et improviser un peu sur le moment, et vraiment il se limitait au minimum de plans possibles. Et je trouve que c'est là aussi que Les Aventuriers est flamboyant et fantastique, c'est que t'as plein de séquences qui seraient de l'exposition un peu rébarbative chez d'autres cinéastes, et lui arrive toujours à rendre ça excitant, efficace, parce que bah, il te fait ça en un plan. Enfin, t'as cette scène absolument géniale dans Les Aventuriers de Brody qui vient voir Indy pour lui dire c'est bon, le FBI ou la CIA, je sais plus, t'autorise à partir retrouver le professeur que tu dois retrouver pour avoir le médaillon et pour qu'on puisse retrouver l'arche, tout ça. Et où non seulement t'as plein d'infos qui te sont données à ce moment-là, c'est où est-ce qu'il doit trouver le professeur, pourquoi lui ne croit pas vraiment en l'arche. Enfin, il se dit c'est intéressant en tant qu'objet historique, mais je n'y crois pas en tant que potentiel danger. Et il y a le danger des nazis autour de lui. Et tout ça se fait dans un seul plan séquence où tu découvres son appartement, où tu comprends qu'il fait sa valise, tu le vois prendre son flingue, le mettre dans la valise. Et tout ça se fait en l'espace de 1 minute 30 à tout casser. C'est d'une efficacité et en même temps, ça te dit tout du personnage sur ce moment très précis.
D'ailleurs, le tournage de Les Aventuriers de l'Arche Perdue a littéralement impacté sa carrière parce que c'est à ce moment-là, pendant le tournage, paumé en Tunisie, sous la chaleur, et il se sentait hyper seul, qu'il a réfléchi au scénario de ce qui devait être à la base la suite de Rencontre du troisième type, donc Nice Guys, et qu'il en a plus ou moins tiré l'idée de E.T., qui deviendra plus tard son succès absolu et total.
Il fallait qu'il recasse E.T. Mais ta vidéo n'a pas marché, Mathieu, donc arrête de parler de E.T.
Regardez mon dossier E.T., s'il vous plaît. Non, mais vraiment, l'expérience a vraiment défini, je pense, la suite de sa carrière, plus encore que 1941, voire peut-être même que Les Dents de la Mer, qui lui a appris beaucoup sur ce que c'était que bosser, etc. Ouais. Mais là, vraiment, il y a cette étincelle de comment je vais, maintenant que j'ai du succès, comment je vais transformer l'essai, quoi.
Oui, voilà. Et puis ce saut de la foi fait aussi que je trouve que, tu vois, on parlait de ce côté contrasté du personnage entre sa nature de pilleur de tombe. Enfin, Harrison Ford, quand il avait accepté le projet, mais quand il faisait notamment la promo du 1, il en rigolait pas mal, tu vois, de dire... Non, c'est pas un professeur d'archéologie, en fait, faut arrêter 2 secondes. Enfin, c'est un pur personnage pop et pulp. Et en même temps, je trouve que là, en revoyant les films, je trouve que tu acceptes tout le temps, à l'exception peut-être du 4, la cohérence, tu vois, de ses inspirations, de ses références très un peu kitschouilles. Mais en fait, il te fait tellement accepter la réalité interne du film que tu ne la questionnes jamais. Et c'est peut-être juste dans le 4 où pour moi, ça se perd un peu dans la dernière heure. Tu vois, limite, j'ai pas de problème avec la bombe atomique. Je trouve ça très cohérent avec l'idée d'Indiana Jones.
C'est clair, j'ai failli faire la blague.
Le coup du frigo dans le Indiana Jones 4, pour être plus précis.
C'est à force d'écouter la promo de Nolan sur Oppenheimer.
Ça doit être ça.
Bon, finalement, c'est pas si mal les bombes.
Ouais, c'est pas si mal les bombes atomiques. Mais tu vois, dans la dernière partie, avec le côté la jungle numérique avec Shia LaBeouf qui se met à littéralement faire Tarzan avec les lianes et tout ça, où là t'as trop de rupture pour moi dans le film pour que tu acceptes cette logique là alors que dans les autres je trouve qu'il y a un équilibre qui est aussi dû à cette efficacité qui fait que jamais tu n'interroges la réalité interne du récit.
Après bon, c'est un peu instant défense du 4 et je suis d'accord pour dire que la séquence des lianes c'est moins l'idée qui marche pas que l'exécution, quoi, ouais. C'est dégueulasse. Mais mine de rien, le 4, c'est quand même une sacrée rupture par rapport au précédent qui reste, comme tu le disais, dans la référence au pulp et au serial des années 30-50, alors que là, il pousse au-delà pour aller dans l'ASF des années 50, vraiment la série B pure dans le sens série B hollywoodienne que tu passais avant les séries A, quoi. Et il y a quand même un petit saut dans le vide par rapport à ça, qui évidemment n'est pas parfait. Mais au moins, on ne peut pas leur reprocher de ne pas être cohérent parce qu'ils font vraiment le panorama des angoisses et de la vision de la science-fiction de cette époque-là. Quoi.
Mais c'est exactement ce que voulait Lucas. Hein. De toute façon, il l'avait dit, et c'était ça que Spielberg n'aimait lui pas trop dans le scénario au départ, mais Lucas avait dit, si on prend en compte l'âge d'Harrison Ford, donc il faut que ça se passe dans les années 50. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les années 50 à ce moment-là? C'est la paranoïa communiste et c'est une SF paranoïaque. Donc... il faut mettre ça, il faut insuffler ce style de film dans ce Indiana Jones 4 pour mettre en abîme un peu l'époque.
Ouais, mais fallait-il montrer l'alien en gros plan devant la caméra?
Surtout que le problème. Et surtout que ça, je l'avais oublié, mais en fait, il te montre l'alien très tôt, puisque le cadavre d'alien qu'il trouve au début du film, il te le montre une fois qu'il est capturé au milieu du film. Donc, de toute façon, l'ambiguïté qu'il pourrait y avoir encore à ce moment où tu as juste vu une main au début, il y a un petit truc, tu es dans la zone 51, bon, limite, tu pourrais encore accepter les choses, mais elle te montre le cadavre d'alien avec le crâne de cristal à l'intérieur, où tu fais bah. Ok, mais enfin, du coup, il n'y a plus aucun suspense sur ce que va être le film.
D'autant plus inutile à la fin de montrer autant en premier plan. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir Mission to Mars, quoi, vraiment un cinéaste que j'aime bien et qui montre la gueule d'Alien en gros plan avec d'interminables secondes pour te dire.
J'allais t'attaquer là-dessus, mais tu le fais tout seul, c'est pas grave.
Mais tu vois, même Mission to Mars, je peux le défendre, vraiment, il y a des trucs magnifiques, mais quand tu montres l'Alien à la fin qui tend sa main, pour moi, là, en plus, c'est incroyable parce que le pied de nez de l'Alien qui regarde la caméra, vraiment, il s'approche en disant tête des méchants, on a compris. Tu es méchant. On a compris que Kate Blanchett a cramé. On n'a pas besoin de ça.
Ouais, c'est pas forcément lui qui est méchant. C'est parce que Kate Blanchett ne mérite pas de.
Ils sont
pas
spécialement gentils. Hein. Ils sont pas là pour aider. Ils sont là plutôt pour asservir, on va pas rentrer dans le débat.
Mais c'est dommage parce que moi j'aime plutôt bien cette scène. Enfin, j'aime plutôt bien la conclusion de ce film. J'aime bien l'intention de ce message-là et tout. Je trouve ça assez passionnant. Tu vois, comme idée qu'il y ait un savoir trop grand que l'esprit humain puisse pas digérer, puisse pas supporter, et que ça vienne de l'espace, tout ça. Enfin, je trouvais ça assez beau. Et effectivement, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, enfin en tout cas pas sous cet angle-là dans la saga. Donc effectivement, enfin il y a le côté très frustrant de, parce que moi j'aime bien le 4 aussi, et vraiment tu te dis putain, en fait là c'est raté vraiment pour une question d'effet visuel, parce que, et peut-être de plan aussi, parce que bon voilà, même en termes de mise en scène c'est un peu trop appuyé, mais vraiment là il passe pas loin d'avoir été d'avoir eu une super conclusion. Je trouve
c'est marrant parce que moi je me dis c'est vraiment une redite du premier. N'ouvre pas les yeux devant l'Arche d'Alliance, si tu les ouvres, tu vas cramer. C'est exactement ce qui se passe dans le 4. Je me dis, been there, done that, quoi. Sauf que c'était moins moche.
Après, moi,
je préférais voir des aliens fondre que voir Kate Blanchett hurler avec des faisceaux fluorescents qui sortent des yeux, quoi.
Alors, je comprends, mais en même temps, moi, c'est un des trucs aussi, donc, comme je le disais en intro, que je trouve pas que Indiana Jones soit des chefs-d'œuvre de manière générale.
Coupez
mais
son micro.
En fait, j'accepte de manière générale, si tu veux, que tous les Indiana Jones se répètent beaucoup, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, bon, même s'il y a une évolution intéressante et on va revenir dessus, etc. La formule n'arrive pas à sortir du fait que bon bah les gros méchants c'est soit des nazis soit des ersatz de nazis. Ils font tous la course vers
sauf
le but final.
Sauf dans le deuxième.
Voilà. Moi c'est celui que j'aime le moins indiens, pour le coup. Donc.
Attention, ça peut être considéré comme raciste ce que tu vas dire.
Mais bah de toute manière les films, ouais, enfin voilà.
J'allais dire, les films Indiana Jones sont pas attendus. Hein.
Ah, oui, c'est ça. Ouais. Non, Indiana Jones c'est quand même souvent raciste, mais bon. Et à chaque fois dans tous les films, t'as aussi donc Indiana Jones qui fait la course contre les méchants. Voilà, ce sera celui qui court le plus vite vers l'objectif final, et au final ils vont tous les deux arriver à chaque fois en même temps jusqu'à la confrontation. Donc bon, moi j'accepte le fait que de toute manière le squelette des films est quasiment toujours le même. Donc voilà, ça m'a moins dérangé.
Mais du coup, dans cette dynamique-là, moi, ça m'intéresse aussi. Là, on parle beaucoup forcément de Spielberg, mais du coup, Indiana Jones 5, c'est le seul Indiana Jones qui, a priori, puisqu'il n'y en aura pas de sixième, n'est pas réalisé par Spielberg. Mais je m'interrogeais sur ça, la présence de James Mangold à la réalisation, et à quel point j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui fait tant tiquer les gens, et au contraire, tout le monde était même plutôt ravi de ce choix-là.
Oh, moi, je trouve que c'est un des choix parfaits. Mangold, c'est un des derniers représentants du cinéma académique dans le bon sens du terme, hollywoodien. Maintenant que Abrams, non. donc vraiment, c'était un bon choix.
J'oublie Shyamalan aussi. Hein. Le nouveau Spielberg c'est des différent. Années 2000.
D'ailleurs, Shyamalan qui a failli écrire un script pour Indiana Jones.
Il a failli faire le 4 et je pense que ça n'a pas mené
Ça aurait été amusant.
Il y a combien eu de scripts d'Indiana Jones 4 ? Parce qu'il y a aussi Darabont qui devait en écrire un qui était visiblement très fantasmé. Et je crois que c'est Spielberg et Harrison Ford étaient très fans. Et c'est Lucas, je crois, qui a dit non. Ce qui avait mis du grain à moudre pour tous les gens qui, à l'époque, disaient « Ah ben voilà, vous voyez, George Lucas, depuis la prélogie, fait n'importe quoi. » Et voilà.
Mais oui, non, mais moi je trouve que Mangold, hyper bon choix. Ces derniers films, c'est vraiment quasiment des lettres de motivation pour faire ce genre de cinéma, quoi. Tu vois, Le Mans 66, c'est vraiment l'histoire hollywoodienne simple mais hyper efficace avec des scènes de course qui étaient vraiment ultra bien shootées. Et moi je trouve que ça fonctionne bien. Il essaye pas non plus à fond d'émuler Spielberg. Il y a quelques bonnes idées de mise en scène qui viennent de lui, tu sens, mais ça reste dans un carcan. Encore une fois, tout est une question de dosage, et Mangold dose très bien. Voilà.
En fait, je trouve surtout que c'est l'héritier parfait, mais qui est en même temps un peu désabusé, parce que tu sens qu'il est arrivé un peu trop tard, enfin qu'il est né un peu trop tard, Mangold, mais qu'il a les mêmes inspirations que Spielberg, justement de ce côté de la série B, des westerns, avec ce côté très composé, très classique hollywoodien, mais que Spielberg avait sans doute un peu dopé à l'époque, justement, notamment des aventuriers. Et en fait, je trouve que c'est limite ce qui est intéressant dans Indiana Jones 5 pour moi, c'est que ça se ressentait déjà dans ses autres films, mais ce côté western, néo-western, mais qui justement arrive trop tard. Enfin, c'est déjà la fin d'une époque, et là Indiana Jones 5 est tellement contraint par l'âge d'Harrison Ford et par notamment les outils numériques qu'il est obligé d'utiliser pour rendre ça un peu plus péchu, que tu sens qu'il fait le film un peu qu'il peut faire avec les moyens qu'il a, mais qu'il peut plus faire du Spielberg. Et je trouve le film assez touchant quand il évoque une certaine mélancolie via le personnage, mais qui est aussi une mélancolie sur le genre.
Je trouve qu'il y avait déjà même un peu ça dans 3D to Yuma, finalement, son remake, où vraiment t'as le côté. Tu sens que le film assume de faire référence à une époque qui n'existe plus. Et il y a un côté un peu désillusion derrière, avec en plus des méga stars hollywoodiennes de ce moment-là, quoi. Christian Bale, Russell Crowe. Voilà.
Est-ce que vous sentez une forme de mélancolie dans X-Men Wolverine Immortel aussi.
Qu'il est vilain.
Mais alors justement, c'est pour ça, moi j'étais un peu partagée sur ce choix, parce que, alors déjà, moi je fais partie de l'équipe en général un peu des vieux cons qui, à partir du moment où Spielberg il a réalisé les premiers, je veux que ce soit lui qui le réalise jusqu'au bout et tout, donc j'étais pas hyper fan du fait que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne les rênes. Et en même temps, j'aime beaucoup James Mangold et je suis très fan justement de son 3h10 pour Yuma, que je trouve vraiment brillant. Donc je me disais, bon, en même temps, c'est le bon choix pour à la fois voilà, être un héritier digne de la saga et en même temps apporter sa propre patte. Et je trouve effectivement que c'est le cas, et que effectivement ce cinéma lui va bien, et que c'est comment dire, au final, tu vois, il y a pas de rupture. Je sais pas comment dire, il arrive vraiment à être dans la continuité, et en même temps il c'est loin d'être un simple faiseur, tu vois, c'est pas du tout comme un Abrams ou quoi, et enfin non mais pardon, c'est un peu violent, mais je veux dire,
la cinquième balle perdue,
non mais on a moins l'impression, si tu veux, d'un enfant qui veut imiter son papa, tu vois, c'est moins le, enfin voilà. En tout cas, bref, non, moi je suis vraiment contente de ce choix aussi, et même ça me fait regretter, enfin j'aurais même voulu qu'il en réalise d'autres, tu vois.
Bah peut-être que si elle doit évoluer, ça sera sans Harrison Ford, mais peut-être qu'avec Phoebe Waller-Bridge ou avec d'autres personnages comme ça, ça pourrait se faire.
Voilà.
La lassitude de l'autre. En tout cas, je pense que ce qui fait aussi d'Indiana Jones cette saga qui nous parle autant, et bon, on est déjà un peu revenu sur cette question-là, mais c'est quand même la notion même de mise en scène, particulièrement celle de Spielberg, mais comme Mangold marche dans cette trace-là, c'est aussi intéressant. Et on parlait de cette efficacité-là, mais je trouve vraiment que pour moi, ce qui fait le sel, et en revoyant les films, c'est la gestion, mais tellement parfaite, du tempo, de tout, et notamment ce qui fait l'iconisation immédiate des figures, et à commencer par celle d'Indiana Jones elle-même, c'est cette gestion du hors-champ, de l'ombre, qui est très présente chez Spielberg, et qui permet de cacher les visages, de les révéler, de révéler des silhouettes quand il le faut. Mais il y a vraiment, je trouve, un tempo, qui est une musicalité dans ces films-là, qui est le seul à avoir, et qui marche vraiment super méga bien.
Moi, ce que j'adore vraiment dans les films, et c'est même, c'est d'ailleurs la note d'intention de Spielberg qui dit, dont il a conscience, qu'il fait vraiment intentionnellement, c'est de ne jamais avoir une seule action dans les scènes d'action. Il y a toujours plusieurs choses qui se passent en parallèle, et parfois même pas dans les scènes d'action. Dans le dîner, le banquet du deuxième, il dit Indiana Jones parle avec le Maharaja et s'engueule avec lui, et de l'autre côté tu as Willy et Demi-Lune qui sont en train de découvrir les mets absolument succulents, et du coup c'est deux tempos et un bordel en même temps, et souvent ce que je trouve très drôle, c'est les transferts d'énergie qu'il y a dans les scènes d'action, notamment les véhicules. Moi je suis assez vite emmerdé par les scènes d'action avec des véhicules, ça me fait vraiment chier, et je trouve que dans Indiana Jones ça marche souvent assez bien, parce que t'as beaucoup de gags et de choses qui se passent en parallèle. Alors, notamment la scène avec le tank dans le 3 et même dans le 4 qui est un peu une redite ratée quand ils sont avec les jeeps dans la forêt, dans la jungle. T'as toujours l'idée de, ok, il y a genre 5 personnages éparpillés sur 3 véhicules. Il y a un moment, ils vont tous changer de véhicule. L'ennemi va être à côté de son ami, l'ami va être devant, le truc va tomber devant, il va le ramasser, ils vont se battre debout, assis, il va tomber, il va s'accrocher. Et ça, c'est extrêmement cartoonesque en fait. C'est le côté cartoonesque que je trouve absolument réjouissant dans ces films.
À la scène de. Parce que j'ai revu le 3 hier, du coup, et la scène avec le tank, pour moi, c'est vraiment la meilleure scène d'action de la saga. Elle est incroyable parce que c'est comme tu dis, mais en plus, je trouve ça encore plus génial, c'est qu'il y a deux scènes d'action en parallèle à l'intérieur et à l'extérieur du tank. Et en fait, la façon dont la mise en scène fait les allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur, sur le papier, n'importe qui d'autre aurait trouvé ça un enfer à chorégraphier. C'est hallucinant. Ils sont pas du tout dans le même espace, mais ils sont à côté. Et y a plein de personnages à espacer dans et à l'extérieur du tank. Et c'est absolument incroyable à quel point ils se répondent tout le temps. Et en fait, à chaque fois, ça passe, enfin, la plupart du temps, ça passe par les armes qui sont de, qui entre, enfin, ça communique par les canons, quoi. Il y a la visée et tout. Et il y a ce plan génial où Indiana Jones se fait tirer dessus par le gros canon alors qu'il est à cheval. Et le raccord, il se fait avec l'obus qui tombe dans le tank. Et du coup, ça enclenche un panneau de la caméra qui revient vers les personnages qui se battent. Et toute la séquence est sur ce tempo-là. Ce qui fait que, alors qu'ils sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, tu comprends toujours ce qui se passe. C'est toujours fun. C'est toujours dynamique. Et il se passe des tas de trucs en même temps. Et vraiment, cette séquence, elle est presque fatigante tellement elle est esthétique, enfin visuellement imaginative, quoi. C'est incroyable.
Et je pense ça aussi dans le deuxième, dans la scène d'intro où t'as vraiment lui, il faut qu'il trouve l'antidote à son poison, et Woody elle cherche le diamant parmi les glaçons. C'est tellement génial, tellement simple visuellement, et du coup ça devient le chaos. Il rajoute de la musique, des ballons, des danseuses, les gens ils hurlent, ça commence à tirer dans tous les sens. Genre, mais comment ça peut être plus drôle et plus amusant que ça, quoi?
Alors pour le coup, moi je trouve que justement c'est, et j'ai beau vraiment bien aimer le 5, je trouve que c'est le moment qui est raté dans le 5, c'est justement la course de voiture où là aussi du coup il essaye de reprendre ce modèle de différentes actions se passant en même temps.
J'ai oublié de laquelle tu parlais, j'ai réfléchi vraiment 3 secondes, c'est quoi la scène à laquelle je voulais penser.
Avec le tuk-tuk, voilà, où t'as les gentils d'un côté et puis les méchants qui les poursuivent, mais t'as aussi un autre groupe de méchants qui est là, c'est une histoire avec le personnage de Phoebe Waller-Bridge, c'est genre son ex qui est mafieux ou je sais pas quoi, qui a décidé qu'il aimait pas qu'elle l'ait quitté, donc il va les poursuivre aussi. Et du coup, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, tu te dis mais pourquoi ça sonne tellement artificiel. Et du coup la scène de course en elle-même, elle est bien, hein, mais c'est juste que du coup elle est tellement pas justifiée que c'est à ce moment-là que je trouve que le film a vraiment une longueur et qu'on s'emmerde un peu, où on voit, bon, il y a plein de choses qui sont bien pensées, mais par rapport aux autres scènes qui sont super dans ce film-là, je trouve que c'est un peu dommage et que c'est là pour le coup ils ont pas trop réussi la formule, je trouve.
Après dans le 3 il y a aussi une faction de personnages qui ne servent juste qu'à être un troisième parti dans les bastons, c'est les mecs qui protègent le Graal là, qui débarquent à Venise parce qu'il faut des mecs qui se battent à Venise, et qui débarquent à la scène du tank parce que c'est plus marrant s'il y a trois personnes en fait. Je crois que même Indiana Jones il dit un truc du genre bon on s'en fout de qui c'est, mais tant qu'ils canardent les méchants c'est bon.
Ils ont droit à l'une des morts les plus drôles quand même de la saga, notamment dans le troisième, c'est quand ils passent entre les deux bateaux là, ils vont et que leur bateau explose.
Scène de dingue en termes de cascade, hein, d'ailleurs aussi, ouais. Incroyable, quoi.
Mais c'est marrant parce que du coup, avec toute cette idée, comme tu disais, de transfert d'énergie, ce que je trouve assez intéressante, c'est que du coup, les personnages s'écrivent toujours dans l'action. Ce qu'on évoquait aussi, c'est que les films vont tellement vite que des fois, tu te dis, ils auraient pas le temps de se poser pour faire ça. Mais en fait, t'as tellement toujours des enjeux clairs dans les scènes d'action que les personnages évoluent toujours. Et en fait, moi, je me suis fait cette réflexion-là aussi, que ce qui fait des séquences d'Indiana Jones, des séquences d'action d'Indiana Jones, des moments aussi tendus et aussi galvanisants, c'est que t'as... Spielberg a toujours en tête l'idée que t'as toujours déjà un enjeu temporel dans ces séquences-là. Donc souvent, c'est un piège qui s'active ou tu vois, une porte qui se ferme, justement le poison qui fait effet sur lui, il faut qu'il récupère l'antidote ou tu vois, des trucs comme ça.
Oui, ou feu qui commence à se répandre autour de la piste de dans le premier avec Marion qui est dans le cockpit. Du coup, il faut qu'elle sorte, il faut qu'il se batte et le feu va arriver, donc ça va exploser. C'est vrai que le compte à rebours parfait, quoi.
C'est ça, t'as toujours le compte à rebours, donc t'as cet enjeu-là et t'as en parallèle de ça un enjeu spatial qui est toujours très clair. C'est soit t'as une ligne droite, que ça soit l'intro du 3 avec le train où ils essaient d'avancer, justement cette scène avec l'avion dans le 1 qui a littéralement une piste d'atterrissage en cercle, donc qui te dit clairement
et l'avion
qui tourne en rond. Donc le truc il est juste parfait en termes d'enjeu, et en fait je me rends compte à quel point dans ces moments là le film construit se permet des retournements de situation permanents et des va-et-vient, tu vois, des transferts d'énergie comme tu dis, qui fonctionnent très bien. Et moi j'adore justement, c'est dans le premier, la scène du bar avec Marion, elle est mais juste parfaite parce que tu viens à peine de rencontrer Marion. Il y a les nazis qui débarquent, dont aussi tu ne qu'on soit pas encore totalement la dangerosité, enfin le niveau de dangerosité, Indiana Jones débarque avec d'ailleurs ce plan sur son ombre absolument génial, et le truc est parfait parce qu'il renverse l'alcool, ça crée du feu, tu vois que Marion est quand même très inventive parce que c'est elle qui pense à passer derrière le bar pour prendre une bouteille et éclater le mec avec, pendant qu'Indy lui se bat contre les autres gars, enfin il y a toujours, il se canarde mais tu comprends toujours où chacun se trouve dans l'espace, et l'espace ne cesse d'évoluer avec le feu, avec tous les éléments autour et les éléments de la fusillade, c'est tellement inventif que c'est aussi ça qui fait que tu t'es autant... Enfin voilà, t'es toujours autant galvanisé, même après 15 visionnages du film.
Oui, une autre scène d'action que moi j'aime beaucoup dans le film, c'est... dans le 5, pardon, c'est la scène de la parade quand Indiana Jones, du coup, parcourt la parade dans le centre-ville à cheval, ou alors là du coup c'est, je sais plus pourquoi c'est une manifestation pour contre la guerre, c'est une manifestation pacifiste.
C'est ça qui est génial pour moi dans cette séquence, c'est qu'il remonte en fait toute la culture américaine des années 70. Tu sais, il part des militaires et il va vers les hippies qui sont contre parce que tu sais, il y a Apollo, d'un côté il y a Apollo et d'un autre côté t'as les militants Peace and Love en gros qui sont contre la guerre du Vietnam, et tout dans la même parade, d'ailleurs c'est très bizarre, mais c'est trop génial parce qu'il remonte tout ça quoi,
et comme dans un western, enfin perché sur son cheval qui fuit des voitures et tout, et pour le coup en termes de mise en scène là tu vois il y a peut-être moins d'action, moins d'acteurs dans cette séquence là que la fameuse séquence de poursuite en voiture, mais je trouve qu'elle est hyper inventive visuellement parlant, qu'elle est super belle en plus, et c'est vraiment un des moments, tu vois, pour moi immédiatement iconique de la saga quoi.
Et moi c'est aussi le début du 4 que j'aime beaucoup, parce qu'en plus le 4 je trouve qu'il amène ce côté que finalement peut-être les gens n'ont pas vraiment aimé à l'époque, parce que très vite après t'as la séquence justement dans la fausse ville qui va servir de test nucléaire, mais en fait le début du 4 il est super énergique, une fois qu'ils ont trouvé le crâne qui en plus avec cette espèce d'effet magnétique qui littéralement dirige la direction de la séquence, après c'est juste lui qui s'échappe face au camion avec toutes les caisses qui explosent dans tous les coins, et juste en un raccord, ce que je trouve assez malin, il y a le russe qui le pourchasse et il tombe tout de suite dans cette pièce en sous-sol qui contient un truc de test de fusée, tu vois, et en fait je trouve que ça révèle à quel point Spielberg a une confiance assez magistrale dans le pouvoir de ses raccords et de ses transitions, ou d'un passage d'un plan en fait et d'un mouvement des personnages qui traversent une vitre, t'es tout de suite dans la séquence d'après et ça redémarre tout de suite et le film s'en fout en fait, tu vois, tu passerais d'une case de BD à une autre en fait.
C'est ça, je me rappelle en l'avoir revu, je me rappelais que la séquence Nuketown, pour les joueurs de Call of Duty vous savez, et la séquence avec l'entrepôt, et je me rappelle qu'elles étaient pas loin, mais avant de le revoir je me suis dit mais comment c'est possible qu'il passe de l'une à l'autre déjà ? C'est compliqué quand même. Et en fait, c'est assez malin parce que ce truc en sous-sol complètement lunaire, finalement, c'est très dans le thème du film de la CIA, les manigances, machin, etc. Finalement, ça n'a pas trop de sens qu'il y ait ça en dessous de l'entrepôt, mais thématiquement, ça fonctionne en fait. Tu poses pas de questions parce que tu es dans l'action. Et vu qu'en fait, il relâche jamais le rythme pendant tout ce moment-là, quoi. T'as pas le temps de réfléchir à ça. Et ensuite, quand il est propulsé, ouais, moi j'adore. Moi, le frigo, je trouve ça génial. Voilà, je le dis. C'est très marrant. l'effet a vieilli, mais c'est hyper pulp, c'est hyper marrant. Voilà.
C'est ça. Moi, la découverte de la ville, je la trouve toujours aussi fascinante. Et dans les choix des cadres qu'il fait à ce moment-là, je trouve vraiment que la séquence marche très très bien.
T'as ce truc dans le cinéma d'aventure qui est toujours un peu rigolo, du le héros sait qu'il est dans la merde et qu'il va bientôt mourir quand même, et là toi tu seras vraiment en train de te chier dessus, lui il fait une blague tu vois, et moi vraiment en le revoyant, le moment où le gars il est sur un centre de test nucléaire, la voiture est partie et il entend une alarme qui pense qu'il va se prendre genre 15 mégatonnes d'ogives nucléaires dans la gueule, il fait oh j'ai vraiment pas de bol hein. c'est tellement n'importe quoi, mais en même temps je trouve que commencer le film sur cette genre de montée en puissance complètement lunaire, ça donne un peu le ton de ce film-là qui est beaucoup plus dans la blague, dans
et
le côté délirant.
Pour autant, ça ne te prépare pas à la fin avec l'alien, hein, comme quoi, il y avait encore de la marge.
Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que l'humour est aussi très présent dans la saga, et malgré le sérieux tu vois, qu'il y a, notamment, comme je le disais, dans l'introduction du 1, avec ce truc, tu te dis, oh, un héros d'action qui s'y croit vraiment, il y a toujours... Enfin, Spielberg arrive toujours à super bien doser l'humour, et finalement, c'est un élément qui aurait pu être casse-gueule et qui peut l'être dans le cinéma actuel très... postmoderne et très rigolard.
Attends, Judith, tu as une tête bizarre.
Oui, non.
Mais l'humour, je trouve, marche bien dans Indiana Jones.
Oui,
non,
alors de
parce
manière.
Que Judith n'a pas d'humour, donc vas-y.
Ah oui, alors
toi.
Ça, évidemment, je suis vraiment. Enfin, la rabat-joie de la bande, mais non, je suis d'accord pour dire qu'il y a plein de passages qui me font rire dans Indiana Jones de manière générale. Par contre, dans le 2, Vraiment, je ne peux
pas. Ça y est, l'obsession. Pourquoi ? Mais pourquoi c'est pas drôle le 2 ? C'est quoi le problème ?
Mais bah, c'est le personnage féminin, évidemment, qui est vraiment absolument catastrophique.
Quel est le problème avec Willy Scott ?
Absolument catastrophique et qui ne sert, en fait, qui n'est là que pour faire exister des vannes, enfin des gags, et aussi pour dire que Indiana Jones tirera son coup à la fin parce que ça semble important. Et en fait, je trouve qu'elle elle n'est que support à blagues gênantes tout du long. C'est vraiment l'archétype de la blondasse hyper vénale, hyper voilà, cruchote, qui a peur de tout, qui sert à rien, qui sert qu'à hurler parce qu'elle a peur de absolument tout et qu'elle ne sait rien faire toute seule. Donc, déjà, en soi, c'est assez insupportable. Et en fait, on sent que le film essaye toujours de nous faire rire par rapport à ça, rire du fait qu'elle est stupide, rire du fait qu'elle a peur, rire du fait qu'elle sait rien faire. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, et puis c'est tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, moi, je veux dire, enfin, c'est juste pas, c'est pas très drôle, quoi. Enfin, vraiment. Et du coup, moi, je le trouve hyper lourd, le 2, pour ça et pour d'autres choses. Hein. C'est juste que je trouve qu'il a cette espèce d'équilibre hyper bizarre entre les passages plus dégueux, donc les moments un peu gore dans le temple. Bon, bah, ça, c'est pas spécialement pour me déplaire, mais toutes les scènes de repas, voilà, où t'as vraiment l'impression, enfin, aussi bien quand ils sont dans la jungle et qu'elle doit manger l'espèce de soupe de limace ou je sais pas quoi. Que le fameux banquet, c'est un peu, tu vois, humour pipi caca mais version gore, tu vois, version adulte, et je trouve que c'est hyper facile, quoi, entre la blondasse qui casse ses ongles ou ça. Bon, là, je trouve que vraiment, c'est le rat des pâquerettes par rapport à ce qu'a fait le reste.
C'est
vraiment
genre, moi, je trouve positif, très drôle. C'est gore, point négatif, ouais. C'est sexiste.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que par rapport au 1, particulièrement, où le personnage de Marion a toujours quand même une évolution assez logique et voilà.
Ça, en le revoyant, quand même. Parce qu'en fait, c'est presque pire pour moi, parce qu'au début, il la présente vraiment comme également une sorte d'aventurière, etc. T'as la scène d'introduction avec les shots où tu te dis, ah, c'est marrant, ils ont inversé un peu. Enfin, tu t'attendais plus qu'à ce que ce soit dans le canon pulp un peu années 30-50, que ce soit lui qui se bourre la gueule avec quelqu'un. Et en fait, finalement, elle a beau essayer de l'aider, elle fait littéralement, enfin, elle fait que lui mettre des bâtons dans les roues, malgré elle, dans la scène de l'avion, etc. Elle devient hyper cruche en quelques secondes, quoi. C'est assez énervant, ouais.
Et c'est con parce que vraiment, elle empoigne la mitraillette et qu'elle te descend des nazis. Et c'est cool, mais par contre, la seconde d'après, comme pour racheter le fait que, attends, c'est une femme et qu'il faut qu'il la sauve, elle se met à hurler Indy, je sais pas quoi, ouais. parce qu'elle fait tourner l'avion. Voilà, ça, comme... ouais.
Et ils ont pas mal, ils ont d'ailleurs un peu corrigé le tir dans le 4 où elle revient, et là, pour le coup, bon, tu te dis ce que tu veux du personnage qui, c'est vrai, est un peu sous-exploité, etc. Mais au moins, elle sert à l'histoire, quoi, elle fait de l'action. Quoi.
Et du coup, pour équilibrer, ils se sont dit, on va la faire sauter avec sa putain de jeep sur un arbre au-dessus de la rivière. Non,
c'est
mais
trop
oh.
bien. Et confiance.
Mais qui a confiance, quoi.
Et t'as ce plan, il y a les Russes qui se reprennent l'arbre, qui revient dans la gueule, qui font ah, qui tombe. Et... t'as le panneau qui tombe de eux qui tombent à elle qui a son petit air satisfait, genre bah je te l'avais bien dit.
Je savais que ça allait se passer exactement
c'est
comme
clair.
Ça.
C'est tellement absurde, tu dis mais comment elle-même, ils ne l'ont pas fait jouer le bon temps tout pour rien, parce que là franchement on n'a pas d'autre issue. Elle dit non mais si j'ai calculé la résistance du tronc au-dessus de la rivière.
On sait qu'elle est, t'as vraiment le plan où elle passe genre une fois à côté le long de la falaise et elle fait genre ok. Et tout de suite après elle se dit j'ai calculé, ça va passer. Bon.
En tout cas c'est la question de l'humour. Je trouve que du 1 au 4, j'exclus le 5 parce que je trouve que c'est un peu à part, il y a une forme de l'humour évolue du un peu classique au quasiment cartoonesque sur la fin, voire voilà, sur du slapstick, etc. Donc type d'humour qui d'ailleurs était aussi très populaire dans les années 30-50, voilà, Keaton, etc., très visuel, et ça se voit notamment, je trouve, dans le jeu de Ford, pour les avoir revus à la suite. Je trouve dans le premier, il est vraiment pas monolithique, mais enfin, il est très bon, hein, bien sûr, mais il y a vraiment du sérieux dans tout ce qui lui arrive, et même si des fois c'est marrant. Alors qu'à partir du 2, il commence à faire déjà beaucoup plus de grimaces dans le moment où l'avion s'écrase et tout. Il est en mode, enfin, on sent que vraiment il grimace plus, et au plus t'avances, au plus ça devient vraiment cartoonesque, je trouve. Jusque bah, du coup, dans le 3, avec le personnage de Connery, alors je sais que c'est lui qui a rajouté beaucoup d'humour à son personnage, mais leur dynamique, bon, qui est irrésistible, hein, moi ça me fait à chaque fois que je le vois, elle marche vraiment comme, ouais, c'est très visuel, c'est très, ils font des blagues tout le temps, même quand ils sont attrapés par des nazis, etc., jusqu'au 4 où là vraiment ils poussent les portes du un peu du n'importe nawak comique américain et du coup, l'évolution, je trouve, dans l'humour finalement rend la saga intéressante aussi. Bon, et après le 5, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mal à se placer sur ce créneau. Il laisse plus ses comédiens mener la danse, j'ai l'impression, notamment avec Bella Bridge qui est.
Oui, c'est ça, j'ai un peu l'impression qu'ils essaient de basculer l'humour sur elle maintenant et se dire en fait maintenant c'est elle qui est la porteuse de cette dynamique et tout. Voilà, tu prends Phoebe Waller-Bridge et tu lui donnes un rôle drôle, waouh, audacieux.
Mais moi j'aime bien, mais en même temps j'aime bien que du coup l'humour se mette à reposer davantage sur les personnages et leur personnalité plutôt que sur des gags un peu trop.
Le fait que Willy crie, c'est un trait de personnalité, le deuxième.
Non, mais il y a aussi le fait que, bon, voilà, souvent dans les tout premiers, encore une fois, il y a quand même effectivement un humour assez raciste. Il y a aussi le fait que ce qui est drôle, entre guillemets, repose beaucoup sur le fait qu'on fasse exploser des animaux dans tous les sens. Ce qui, moi, m'a vraiment donné l'impression de regarder une version live action de Tintin au Congo sur quand même les deux premiers. Voilà. Donc, on va dire que je mets un peu de l'eau dans mon vin sur l'humour de la saga, quoi.
Mais il y a un truc drôle, amusant dans le deuxième, c'est que. C'est un film que Spielberg n'aime pas, qu'il trouve beaucoup trop sombre, et il a un peu rejeté la faute, même s'il dit ça entre gros guillemets, sur George Lucas, parce que dans leur collaboration, il y a toujours « je le fais parce qu'il m'a demandé, il a envie de faire ça, ça je m'instoppe pour cette histoire-là, bon je le fais ça parce que George Lucas il voulait des aliens ». Et dans le deuxième, Spielberg dit qu'il a vraiment, il voulait beaucoup d'humour pour équilibrer la noirceur extrême du film. Et c'est ça que je trouve un peu fou dans ce film-là, comme tu dis Judith, c'est qu'il y a vraiment les deux facettes, et oui. C'est un film où il côtoie vraiment les extrêmes de deux côtés, donc l'humour ne s'arrête jamais, et la noirceur est tellement extrême que tu vois des enfants se faire fouetter, et que Indiana Jones lui-même devient méchant avec le gamin trop mignon du film. Ça rend, alors comment on peut faire les deux extrêmes, après on peut plus aller plus loin.
C'est vrai.
Et en même temps, t'as des moments de pur, où c'est la mise en scène de Spielberg et le jeu de ses acteurs qui ensemble font des trucs absolument géniaux, et pour le coup, c'est vrai que moi,
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dans le 2, la séquence de parade nuptiale d'une certaine façon entre Willy et
entre les deux chambres,
oh,
là,
entre
les deux chambres, génial, c'est tellement drôle,
il y a une rythmique comique qui fonctionne extrêmement bien,
la musique
dans le,
et tout, non,
voilà, t'as tout est dans la
boulevard,
la
mais oui, avec les deux chambres et tout, c'est
et ce qui est génial, c'est qu'après du coup l'action, l'horreur arrive, fait éruption, enfin dans un coin qui est censé être comme au théâtre, un truc, tu dis mais c'est un mur, en fait c'est pas un mur, c'est quelqu'un qui arrive, et là ça reprend, je trouve que encore la bascule sur le pétage de crise un peu préconjugal, préparade nuptiale, et le fait que l'horreur est là, en fait, elle est derrière la porte, elle arrive, les deux se rejoignent, et ça que je trouve que le rythme il est incroyable, c'est que vraiment ça ne s'arrête jamais, et à chaque fois que t'es sur une note d'horreur, une note d'humour, ça passe de l'autre côté, et c'est génial.
Et voilà. Des fois les deux en même temps, parce que la scène où du coup c'est Willy qui doit les sauver quand ils sont coincés avec l'espèce de les trucs de pique là qui
le
leur tombent dessus,
oui.
Le piège, et où là pareil c'est génial, tu vois, dans la physicalité de Ford, et moi il y a ce plan que je trouve vraiment très rigolo où les piques atteignent son chapeau qui du coup est littéralement, enfin qui s'écrase sur sa tête, et tu le vois lui faire sa grosse grimace en se disant c'est bientôt la fin, et c'est juste parce que Willy tire le bon truc que ça les sauve à la dernière
avant
minute.
Avant de se rappeler,
Spielberg dit qu'il a rajouté ça après en disant en fait c'est énorme qu'il rajoute ça, parce que c'est vraiment toute l'idée du film, c'est qu'au moment où tu penses respirer, c'est reparti, et la musique horrible redémarre, tu dis bon c'est le problème de quelqu'un d'autre, tant pis quoi.
Mais qui finit sur même là encore la note d'humour où c'est lui qui sauve son chapeau à la toute dernière minute, mais qu'il a aussi, tu vois, créé, comme on le disait finalement avant, l'enjeu temporel, donc là la porte qui se ferme, et jusqu'à la dernière minute, même pour un côté un peu blagounette, ça crée de l'enjeu, et c'est pour ça d'ailleurs c'est une image que tout le monde retient d'Indiana Jones, en fait, ce
et
truc,
d'ailleurs,
il sauve le chapeau.
Dans le premier il récupère son chapeau dans la scène d'intro pour ne pas le laisser de l'autre côté de la porte, dans le deuxième il la récupère aussi, et dans le troisième quelqu'un hors champ lui balance pour qu'il le récupère après être faussement mort au-delà de la falaise.
C'est le vent,
après la poursuite du temps.
Vent.
Non, c'est Spielberg qui lui a jeté, on le sait très bien.
Et dans le quatrième, il le récupère au moment où son fils pense pouvoir le mettre
la
fin, dans la scène du mariage.
Et dans le cinquième
Dans le cinquième, il y a le tout dernier plan.
Tout dernier plan, oui. Ouais. C'est lui qui reprend son chapeau.
Ce que je veux dire, ce film a beaucoup marqué, hein, clairement. Évidemment, que je trouve aussi très drôle dans le deuxième, et qui est un parfait truc d'humour, de timing extrêmement simple, c'est quand il veut de l'eau pour ses chaussures après la poursuite avec le wagon dans
les
mines.
Parce que ses chaussures boivent beaucoup.
Et il dit « water, water !» Et après, t'as du coup la vague d'eau qui arrive et dit « water, water !» C'est vraiment extrêmement
simple. Surtout que
drôle,
ça suit une poursuite complètement ahurissante
dans les mines, là.
Dans les mines, là, que, en le revoyant, je trouve que ça a vraiment pas vieilli. Les maquettes sont incroyables.
Et il a voulu dans le premier. Et ils ont pas pu. du coup, il a casé dans le deuxième. Ils ont écrit par rapport à cette séquence, cette volonté de l'avoir.
Mais franchement, cette scène, elle est dingue. Et en plus, ça se termine, ils sortent, et là, ils se retrouvent face à une falaise, et tu fais, mais c'est pas fini!
C'est incroyable.
Et là, t'as la scène avec le pont. Enfin, c'est vraiment.
Et avec les crocos, et puis t'as toujours un élément. Mais c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, tu vois, la scène des mines, je trouve que c'est ultra caractéristique du pouvoir de la rythmique du film, parce qu'effectivement, je trouve que ça fait partie de ces rares scènes qui, malgré les technologies utilisées pour l'époque, donc beaucoup de miniatures avec des caméras qui passaient sur le système de miniatures, quand tu le sais aujourd'hui, il y a plein de plans, et c'est d'ailleurs un truc assez récurrent dans Indiana Jones où pour des contraintes de tournage, ils avaient, ils faisaient avec les moyens du bord en fait parfois. Et t'as un plan quand 2001 se fait agripper par les ennemis de l'autre côté et que du coup il est littéralement au-dessus du vide avec les bras d'un côté et les jambes
au-dessus
de l'autre.
Au-dessus de la lave.
Ça, j'adore. Il y a de la lave quoi, dans
mais en
ce
fait,
temple.
Ce plan-là dure. T'as vraiment un plan large là-dessus, mais qui dure une demi seconde. Et en fait, c'est intégralement fait en miniature avec tu sais des petits morceaux, des pantins quoi, tu vois. Et maintenant, si tu le sais, tu le vois, mais en fait, le truc passe tellement comme une lettre à la poste que tu te poses même plus la question. Et il y a le 1, je me suis fait la même réflexion, t'as ce plan incroyable à la fin de la poursuite avec Indiana Jones quand il arrive à récupérer l'arche, il se barre avec le camion, et t'as Belloc qui est avec l'autre, enfin avec le méchant nazi dans la bagnole.
C'est un
et
méchant nazi.
Oui.
Le gentil nazi. Les gentils nazis. Le très méchant nazi pour le caractériser. Et en fait, le très méchant nazi, pour des questions de tournage à ce moment-là, il est pas dans la bagnole. Et du coup, t'as vraiment juste Belloc qui est dans la voiture. Et t'as, si tu regardes bien, t'as juste un chapeau avec un vague pantin et le manteau mis par-dessus. Quoi. Mais en fait, le truc va tellement vite et tellement efficace que jamais tu remarques ce genre de truc-là. Et c'est parce que le film a plus de 40 balais maintenant que les gens, forcément, sur Internet, pointent du doigt les petits trucs comme ça. Mais jamais tu t'attaches à ce genre de détails.
En t'entendant parler de la poursuite wagon dans les mines avec 2001 qui est entre les deux wagons, je me dis c'est encore une fois la même idée qu'il y a avec Cate Blanchett et Shia LaBeouf dans le quatrième où ils sont au-dessus d'un truc, au-dessus de bon là c'est juste des arbres, c'est pas de la lave, donc c'est quand même vachement moins bien.
Ça lui
et ils se battent
couilles.
À l'épée et c'est le même truc de deux véhicules qui avancent et un truc de transfert et tout, et c'est marrant comme ils recyclent un peu les mêmes idées en disant il y avait de la lave, il y avait de la jungle, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et tout. C'est peut-être pour ça que je trouve que la poursuite dans le cinquième avec les tutuks, je sais pas quoi, leur véhicule est un peu chiante. Parce qu'en fait, c'est un décor que tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup vu et il y a beaucoup moins de gens qui passent d'un véhicule à l'autre et c'est un petit peu simplé par rapport aux autres choix.
Oui, non, mais je trouve qu'il y a un truc qui va vachement de pair avec l'humour. Du coup, c'est aussi la violence. Hein, on en a beaucoup parlé, notamment sur le 2, qui est un des films qui a contribué à la création du classement PG-13, donc qui est aujourd'hui un peu la norme en termes de classification des gros blockbusters hollywoodiens.
Donc interdit aux moins de 13 ans sans accompagnateur.
C'est ça, qui est. Parce que. Après tout, quand t'es accompagné, tu peux être traumatisé, c'est normal.
Oui, voilà.
J'adore cette phrase. Après tout, quand t'es accompagné, tu peux être traumatisé.
Non, mais j'ai jamais compris comment ils m'ont fonctionné, les Américains. Enfin, excuse-moi, mais le R, c'est lunaire. Enfin, c'est-à-dire que tu peux aller voir le film techniquement si t'as 10 ans, mais que t'es accompagné par ton père. Mais excuse-moi, si tu vas voir Evil Dead, le remake, accompagné par ton père.
C'est son problème. C'est plus celui du cinéma.
C'est lui qui va avoir payé le psy, quoi, après.
Mais oui, voilà.
Bah non, mais peut-être qu'il peut te cacher les yeux, tu vois. Il compte là-dessus, je pense.
Enfin,
peut-être que tu le mérites.
Il y a des films, il met juste un bandeau sur tes yeux, alors ça sert à rien, tu vois. Bref. Oui, du coup, suite à la violence du film qui est, mon dieu, de vénère, quand même, ils ont créé cet intermédiaire entre le tout public.
Et puis Spielberg raconte qu'il a appelé le boss du comité de classification et lui a dit « Je pense que vous devriez créer un intermédiaire qui s'appellerait PG-13 ou 14, à vous de voir quel est l'âge qui vous convient. » En fait, c'est vraiment Spielberg qui a créé ce truc, quoi, avec aussi les Gremlins, je crois, qu'il avait produit, qui sortaient la même année, qui étaient un peu les deux à repousser
les
limites.
C'est les deux, deux films familiaux qui jouent quand même beaucoup sur les codes de l'horreur et qui le font très bien, d'ailleurs, et tous les deux de l'école Spielberg. Hein, parce que
mais ce qui est marrant, parce que même déjà les aventuriers, quand ils regardent, je trouve que limite, tu vois, la dernière croisade est de loin le plus. Mais même avant les nazis qui fondent, enfin, tu vois, c'est l'image qu'on retient de Indiana Jones 1, mais t'as des mecs qui se font écraser par des bagnoles, enfin, t'as au début justement les différents personnages qui se prennent les pièges.
C'est
donc,
quand tu vois la gueule de son guide Alfred Molina exploser quand il passe devant. Hein,
Et en plus, ça joue sur un effet de jumpscare, c'est vraiment lui s'échappe du truc, il se tourne, le travelling le suit, puis bam, tu vois le visage.
Non, mais c'était mieux avant. Avant,
c'était mieux. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je sais que mes parents ont grandi forcément avec Indiana Jones, et quand je les ai découverts la première fois à la télé avant la sortie du 4. Moi je sais que mon père était, c'est une des rares fois, mon père était un peu méfiant à ce que je regarde les films parce qu'il savait ce qu'il y avait dedans, et du coup notamment la fin du 1 il m'avait un peu prévenu, ce qui limite avait créé une appréhension chez moi, mais parce que c'est quand même des films qui mine de rien pour les enfants, c'est des films que tout le monde a vu en tant que gamin, mais qui a quand même créé une forme de petit trauma, mais ce qui était aussi la force des films en fait, c'était aussi ça, c'est que tu savais qu'Indiana Jones t'avais le rire mais t'avais un peu le frisson aussi de te dire va y avoir des images que j'ai pas forcément vues et qui vont un peu repousser ce que je suis capable de voir.
Franchement, quitte à faire vraiment le vieux con et jouer la carte de c'était mieux avant, Enfin, il y a des trucs qui me font halluciner aujourd'hui où quand il y a eu le Doctor Strange de Raimi qui est sorti, t'as eu des assauts de parents qui ont dit « C'est scandaleux, le film devrait être classé R » alors que c'est bon, il y a un zombie à un moment, il saigne même pas quoi. Et tu retrouves le Temple Maudit avec cette scène de sacrifice complètement hallucinante qui dure 7 minutes où le héros se pose pour regarder quelqu'un se faire arracher le cœur dans le plus grand des calmes et tu te dis... En vrai, l'aventure, c'est ça aussi, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas ces aspérités et cette violence qui revient de temps en temps, il n'y a plus d'enjeu. En fait, c'est ça le truc, c'est que à partir du moment où ton personnage, il est pulp, il est pop, il peut rien lui arriver. Indiana Jones va toujours s'en sortir. Du coup, il faut trouver d'autres moyens de rendre ça palpitant.
Donc, il faut tuer des enfants.
Du coup, voilà. Buter des gosses, voilà.
Fin mot de l'histoire, c'est non, tuer surtout, des animaux et des enfants.
Surtout, ce qui a aussi défini le cinéma d'aventure via Indiana Jones, c'est le côté très texturé de ce truc-là. C'est-à-dire, c'est craspec. Enfin, c'est le premier. Tu commences vraiment avec cette idée de l'étoile d'araignée partout, que ces lieux-là sont vraiment abandonnés depuis très longtemps. Donc, t'as ce côté. Enfin, ouais, voilà, tu vois, qui est dangereux, quoi. Et c'est. C'est pas tout lisse, tout propre. Ce qui, moi, par exemple, est le gros problème que j'ai quand je vois le film Uncharted, où je me dis, mais que c'est lisse, que c'est sans enjeu, quoi. C'est, vraiment, tu te dis, mais il n'y a rien qui semble vieux, il n'y a rien qui semble dangereux, il n'y a pas de grosses araignées, il n'y a rien de trucs comme ça, tu vois. Alors que tu regardes justement la scène du temple maudit avec tous les insectes par terre, et quand ils disent, oh, on dirait qu'on marche sur des biscuits, et puis t'as le truc qui se révèle, même si t'es pas peureux
de
des insectes.
Arrête de soupirer, Judith, je t'entends d'ici.
Enfin, la scène a fait un effet. Pareil, tu vois, moi, je suis pas particulièrement phobique des rats, mais tu vois les rats dans la scène de la dernière croisade, c'est vénère comme truc, quoi. Tu vois,
Moi, j'aime pas les mi-pads.
Ils meurent tous à la fin.
Ils meurent tous.
À cause des... J'adore. Non, c'est pas des nazis, là.
Non, c'est justement, c'est ceux qui protègent le Graal qui, par contre, n'ont que faire des rats, là, qui crament tout.
C'est pas des créatures de Dieu, écoute.
Alors que c'est si mignon.
Non mais je trouve ça... d'ailleurs ils le reprennent jusqu'au 4 hein, parce que la scène avec les fourmis dans le 4 elle est quand même bien méchante hein, avec les fourmis qui te rentrent dans la bouche et tout là.
J'avoue qu'elle est pas mal.
Mais ça tu vois ça m'a un peu traumatisé ça pour le coup. Moi j'ai vu le film en salle à la sortie avec ma maman et...
Tu veux qu'on en parle
Mais pour le coup la scène des fourmis tu t'y attends pas, tu fais aouh. Mais tu vois même c'est dans le détail parce que pour le coup c'est une scène qui est beaucoup plus numérique que d'autres scènes avec des animaux ou ce genre de choses là dans Indiana Jones, mais t'as toujours ce rapport à la texture et par exemple t'as ce détail génial qui est que quand il y a une des fourmis qui essaie d'atteindre Kate Blanchett qui suspend un arbre, elle écrase la fourmi avec ses genoux et t'as le sang de la fourmi qui s'écrase sur l'objectif et plus tard quand ils passent avec la bagnole ils écrasent toutes les fourmis et pareil en fait l'objectif est littéralement
on dirait du
aspergé.
Paul W.S. Anderson, c'est magnifique.
Pauvre Spielberg. Qu'est-ce qu'on dit.
Mais oui, de toute façon il y a un truc dans cette saga. Et moi qui suis fasciné et terrifié par les scorpions de voir Shia LaBeouf se faire piquer par un scorpion, j'avoue que même si c'est très court je me dis
et la scène est géniale, plus c'est gros mieux c'est le scorpion.
C'est marrant parce qu'on a tous une petite bestiole qu'on aime pas particulièrement et la saga a vraiment brassé tout quoi. Moi j'aime pas les mille pattes dans le temple maudit, j'ai fait
C'est marrant parce que tu vois même si je trouve la scène assez ratée, moi je déteste les murènes, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Et là, dans le 5, quand je les ai vus débarquer, j'ai fait...
En plus, c'est pas le genre de truc où tu te dis, c'est clair, genre, ils vont essayer de faire peur, ils vont nous mettre des murènes, tu vois.
Ils ont pensé à moi,
Mathieu,
tu vois.
Mathieu attendait des requins, il était trop déçu. Il s'est dit, putain, ils sont de la Méditerranée, ça y est, des requins.
Excuse-moi, mais c'est quand même une saga hyper pulp et tout. Ils ont fait les crocos, ils ont fait les murènes, il n'y a toujours pas eu de requins. Mais
et
à quel moment.
Je crois qu'il y a une version qu'ils voulaient peut-être faire à la place du 2 quand ils évoquaient toutes les idées de suite, et il y avait... des dinosaures. Je crois qu'ils voulaient faire la vallée aux dinosaures.
Mais ça, c'est vraiment ce qui manque. Enfin, vraiment, il faut ça.
Heureusement que les jeux Tomb Raider sont là.
Bah oui, bien sûr.
Je t'avoue que, spoiler du 5, moi, franchement, quand ils sont rentrés dans la faille...
Ah non, je sais ce qu'il va dire.
J'ai fait... Allez, pitié, faites qu'ils aillent dans les dinosaures, s'il vous plaît.
Ah, merde.
J'ai vraiment prié chaque cellule de mon être
mais
pour
65
que ça arrive.
Avec Adam Driver, ne t'a pas suffi cette année.
Ah, bah ça aurait été beaucoup plus marrant.
C'est vrai que franchement, le combo nazi-dinosaure, ça aurait été pas mal.
Ça aurait été génial, mais oui.
Mais il y a Iron Sky 2 pour ça, si tu veux.
Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que tu vois, il y a une sincérité dans ce film qu'il n'y a pas du tout dans ces trucs hyper cyniques à la Iron Sky et compagnie. Qui marche vachement et d'ailleurs je trouve qu'il y a peu de cinéastes qui ont réussi à perpétuer cette vision d'une aventure qui déconne pas du tout et parmi eux je pense qu'un des rares qui l'a fait c'est Jackson hein. Le King Kong, la fameuse séquence des insectes géants, trauma absolu pour moi et beaucoup de gens je
ça
pense
level
mine de rien tu t'en rappelles Skull Island c'est un vrai endroit de
tu t'en souviens
dans celui de Peter Jackson
ouais.
Mais la séquence c'est avec les
quoi alors moi j'aime pas le film mais cette séquence elle est hallucinante.
Moi je peux pas, pour moi ça pue trop le CGI, j'arrive pas du tout à croire à la présence des créatures à l'écran.
Andy Serkis avec les pics sur sa
mais
tête
attends,
là mais quelle horreur.
Le mec il crie et c'est étouffé par le ver qui lui mange la tête.
Imagine
c'est...
ce qui lui arrive et quand le mec essaie d'escalader qu'il y a un truc une patte qui sort du mur qui le chope quoi.
C'est toi qui a pas d'âme, c'est
cette personne me terrifie, vous le savez.
Non en plus moi je me souviens parce que le King Kong je l'ai vu à la télé et c'était une des rares fois où je crois que c'était TF1 ou je sais plus quelle chaîne, mais avait dit, genre, avait prévenu, tu sais, c'était moins de 10 ans, mais il disait attention quand même, c'est un peu vénère. Et moi, mon père me dit, t'es sûr que tu veux regarder ça? Et je fais, ouais, pas de problème, je regarde ça. Moi, je suis un bonhomme. Et la scène des insectes arrive et je fais, ah,
je me rappelle. Pourquoi tu m'as laissé, papa?
Je me rappelle que c'est genre. Ma mère qui demandait à mon père de le voir avant pour savoir si c'était approprié pour nous. Genre lui, il a regardé à moitié en jouant à Dofus parce qu'il faisait ça à l'époque, tu vois. Tu sais, il se disait, oh, c'est bon, c'est King Kong. On a regardé le film, il y a les scènes des insectes. Je crois que ma mère, elle a vu nos têtes se décomposer. Elle a regardé mon daron qui a fait, oh, je l'avais pas vu ça.
Mais là, c'est marrant parce que dans le cinquième, il remontre des insectes. À un moment, il passe entre deux parois. Et je trouve que ça n'a plus trop de sens. La peur de Phoebe Waller-Bridge, elle est assez réduite. Et c'est juste une petite parenthèse. Et ça va peut-être de pair avec le passage au CGI où je trouve que la scène des fourmis, il y a des images assez fortes. Mais je trouve que, comme celle des murènes, il y a un truc qui se perd vraiment à partir du 3. Où déjà, je trouve que dans le 3ème, les rats, je trouve que c'est un level de peur qui est quand même moindre par rapport aux deux premiers. Et pour le coup, c'est un truc qui se perd un peu la sensation de réel danger, de terreur d'un truc qui est pas fantastique parce que c'est des choses qui existent sur Terre, mais tu te dis pas dans cette quantité, pas dans ces proportions et pas autant sur moi. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la saga, ça se perd un peu, et même les fourmis, tu vois, c'est, je trouve que le fait que ce soit en plein jour, qu'il y en ait autant et que ce soit dans ce contexte, il y a un truc qui est plus cartoonesque que un peu effrayant comme il y a dans les premiers, où pour le coup, je trouve que ça marche vraiment bien.
C'est un peu du Sam Raimi, les fourmis, tu vois.
Ouais, après, tu vois quand même le premier mec se faire bouffer, tu vois, en plus, tu sens que ça, ça l'agresse et tout, et puis petit à petit, il contrôle plus son corps.
Le plan du mec qui convulse pendant qu'il se fait attraper dans la fourmilière, c'est quand même.
Mais ça fait très la momie, je trouve, avec les scarabées qui bouffent les gens.
Ah ouais, c'est vénère aussi, ça. Mais tu vois pas le squelette dans la momie.
Film d'aventure un peu méchant, rigolo, tu vois.
Ah, mais c'est scarabée de merde.
Mais dans Les Héritiers, mais tu vois, c'est marrant parce que je pense aussi que ce qui a fait Indiana Jones pour ça, c'est la place d'ILM qui à l'époque bossait beaucoup sur les Star Wars, mais Indiana Jones est l'autre saga qui les a grandement fait évoluer d'un point de vue des effets visuels, et c'est encore une fois dans le côté texturé, quoi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu peux te dire que tu vois le côté un peu vieilli de l'effet des mecs qui fondent, enfin l'idée d'avoir fait un sculpte des mecs en gélatine avec plein de couches pour représenter tous les muscles et avoir mis des trucs des brûleurs pour que ça fonde en 10-15 minutes, après t'accélères au montage.
C'est vrai qu'on dirait une bougie nazie qui fond.
Mais c'est
direct.
Ça quoi. Mais en même temps, l'effet, il est saisissant parce qu'en plus, tu vois les lunettes tomber, t'as un truc qui est très. Tu sais, qui est tangible, quoi. Tu vois, moi, c'est vraiment les lunettes qui tombent qui me fait acheter l'effet, tu vois. Tu te dis, putain, mais le mec a vraiment son crâne, enfin, tout ce qu'il y a sur son crâne qui est parti, quoi. L'image, elle est terrible. Et pareil pour la mort de Donovan qui, limite, moi, me choque
ça,
plus.
C'est génial.
Tu vois, la mort de Donovan dans le 3. Et ça, pour l'époque, c'était fou parce qu'en fait, ils l'ont fait avec des marionnettes. Mais en fait, à l'époque, ils avaient ILM testé en numérique, enfin, avec les outils de synthèse, le morphing sur Willow. Et en fait, ils ont fait 3 marionnettes différentes à différents stades d'évolution de la.
Du
temps qui passe, voilà. Et c'est le morphing après qui les aide à conclure l'effet en numérique techniquement.
Ah, ça, cette scène est tellement forte avec Elsa qui hurle en face et tout. En plus, c'est cette petite conne qui lui a dit de prendre cette coupe. Il est très con lui d'y avoir cru, hein, franchement. Donc il le mérite.
Ah oui. En le revoyant, c'est dingue à quel point ils vont vite, mais tout le monde, hein. Vraiment, elle débarque et elle dit, c'est celui-là. Elle lui fait, ah, je le vois, c'est lui, forcément, il le mange, il crève. Et ensuite, t'as déjà.
Il mange, carrément.
Il mange le caïs.
Il mange la coupe, il me l'a, bizarrement.
Il est bois. Je trouve que Indy, lui aussi, ça va très vite. Il fait, moi, fils de charpentier, c'est en bois, allez hop.
Mais lui, à la limite, tu comprends son papa en train de mourir. Donc, à la limite, tu dis, il peut être dans l'urgence. Alors que Donovan n'a aucune raison.
Il vient quand même de voir le mec se momifier en temps réel devant lui, et il n'est pas plus précautionneux que ça, quoi.
À ce moment-là, il y a plus le temps de niaiser quand même, il faut qu'il sauve son père, donc il faut y aller.
Ouais, alors moi justement, pourtant voilà, le 3 c'est peut-être mon préféré, ou en tout cas l'un de mes préférés, mais je trouve qu'effectivement, enfin je suis un peu déçue par ce dernier segment pour toutes les choses que vient de dire Mathieu, mais aussi parce que cette espèce de vieux mec là qui reste là pour garder le Graal depuis longtemps et tout. Alors j'aime bien l'idée, en vrai j'aime bien l'idée, mais j'aime pas la manière dont c'est mis en scène, parce que je trouve qu'ils arrivent pas à rendre un petit peu l'aspect mystique qu'il y a autour de tout ça, et qu'en fait du coup il a vraiment juste l'air effectivement d'être un vieux mec en costume qui est assis sur sa chaise.
C'est un vieil intermittent qui a été posé là.
Mais
hein,
vraiment qui attend de faire ses heures et
depuis bien longtemps
et à la fin quand ils se barrent, alors sachant qu'ils ont tout fait s'effondrer, genre le mec qui garde le Graal depuis des millénaires là, les mecs ils arrivent, ils foutent le bordel,
ans,
c'est déjà pas mal, et tout s'effondre, et à cause d'eux, tu vois, à cause de leur connerie et tout, et le mec il est pas fâché du tout, il est là à la fin, il fait bon bah salut, tu
vois, qu'il est content, il est libéré, non,
de la vie, hein,
ah ouais, ouais. Bah, je sais pas, il fait une sorte de coucou,
t'inquiète, tu auras bientôt la série spin-off préquelle sur les origines du Chevalier sur Disney+. Ça va durer aussi longtemps que la série Willow. Tu
vois. C'est vrai.
T'es genre un meurtre trop, tu l'as. Elle m'a regardé terrifiée, quoi, j'adore.
Bah non, mais il y a tellement de projet chelou qui voit le jour.
Surtout que c'est Willow, elle a lui, donc ça marche plus. Oui, d'ailleurs, il parle anglais, ce mec-là. Je l'ai renvoyé en le revoyant.
Bah, beaucoup de gens dans Indiana Jones parlent anglais.
Mais bon, là, c'est quand même vraiment, vraiment étrange, quoi. Genre, ça fait 700 ans qu'il est là. Et,
ah oui, d'accord.
Il a eu le temps de potasser, justement.
C'est vrai qu'il y a que ça à foutre, hein, donc.
Enfin, je pense. Bref.
Moi, je pensais qu'il allait parler le chevalier.
Mais sur les CGI, moi j'ai un vrai problème que je comprends pas par rapport à Spielberg, c'est comment il a pu valider le rendu de certaines scènes dans le 4. On en parlait, celle des singes et de Chia-la-Bœuf et avant les fourmis où ça passe, je ne comprends pas comment Spielberg et Lucas et tous les gens impliqués là-dedans qui sont quand même pas des manchots, comment quand tu vois le film, vraiment c'est dégueulasse. Et le moment où il se bat avec Cate Blanchett, Chia-la-Bœuf, c'est une idée vachement drôle qui pourrait vraiment dynamiser, ça devient un côté complètement ridicule de se battre à l'épée en avançant, c'est exactement ce que tu peux attendre d'un Indiana Jones. Mais pourquoi ce rendu, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment ils en sont arrivés là. Et pourtant, quand il fait des films aujourd'hui, Spielberg, il maîtrise très bien ces outils-là, donc c'est pas comme si c'était un vieux con dépassé par la modernité. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce film?
Alors il me semble qu'ils avaient prévu de faire beaucoup plus en dur à l'origine, et que c'est au fur et à mesure du tournage qu'ils se sont rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus facile de passer par le CG, et que du coup ils ont dû un peu escamoter à la dernière minute.
Mais c'était pas aussi beaucoup plus simple de couper des séquences du coup à ce stade-là? Vraiment, le moment où tu dis.
Tu peux couper ce moment-là. En vrai, moi, ma grande surprise, le 4 va quand même assez.
Chia-la-Bœuf
passe
pas par les arbres, quoi. C'est rien que
ça. Oui, oui.
En plus, après il atterrit dans les jeeps, ça ne sert à rien, tu vois. C'est pas comme si les singes faisaient un truc spécial.
Mais lui, je crois qu'il tenait vraiment à ses traits fat Tarzan. Ça, je crois que Spielberg, il en avait pas mal parlé. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment dans l'exécution où tu ne comprends pas. Mais c'est des aléas comme ça, je pense, de cette période-là dans les années 2000, tu vois, bah, on parlait de King Kong, j'adore Jackson et globalement King Kong est un très beau film, mais
c'est un peu dégueulasse.
Il y a deux trois passages, le passage avec les Diplodocus, c'est un peu en termes de CGI.
Là, j'entends rien.
C'est la vérité. C'est la vérité quand même.
Mais c'est là peut-être un truc qui se perd quand même objectivement dans la saga, même si peut-être le 5 c'est moins pire, mais j'ai aussi, tu parlais des Murènes où il y a quand même un rendu, une maîtrise qui est un peu plus floue sur à quel point on montre les choses, on les met dans l'obscurité. Je trouve que dans le 4 c'est beaucoup trop la lumière, dans le 5 c'est peut-être un peu trop dans l'obscurité, mais en tout cas il y a un truc qui se perd vraiment, et sans vouloir faire les vieux cons de c'était mieux en effet physique, quand tu vois les trois premiers, peu importe ce que t'en penses, il y a quand même une qualité, une solidité de tous les instants, et même dans le truc de la mine, même dans les moments où ils vont un peu loin, qu'il y a de la lave et qu'il y a tout un tas de trucs, c'est extrêmement cohérent, c'est maîtrisé, et à partir du 4 t'as vraiment des moments, enfin désolé je vais reparler du gros plan de l'alien de merde là, mais à quel moment il se dit qu'il y a une quelconque magie qui survit à ça, et quand le tourbillon arrive et que ça apporte, en fait t'es obligé de te dire mais je vois toutes les coutures de ce qui se passe à l'écran là, au-delà de ce que je pense de l'idée, de la théorie de l'alien et tout ça, que tu aimes ou que tu aimes pas, dans le rendu vraiment tu te dis mais là il y a un pas de côté, c'est vraiment bizarre.
Imagine on fait un grand écran large où on passe un film où à la fin l'alien il est en gros plan et c'est dégueulasse. Ce serait marrant quand même.
Quel petit bâtard.
Je comprenais pas de quoi tu parlais au départ.
Merveilleux.
Sauf qu'on a dit que dans Indiana Jones 4, contrairement à Signe, il y a trop de fautes. Je pense que moi, s'il y avait que l'alien, j'aurais pas de problème. Le fait est qu'avant, le frigo me dérange pas tant que ça, mais la poursuite de la jungle, c'est un level beaucoup plus haut, et le fait qu'il y ait l'alien à la fin, c'est le troisième clou dans le cercueil. Donc, ça n'a rien à voir.
Mais pour le coup, je trouve le 5 intéressant par rapport à ça, parce que ça devient pour moi un peu le sujet du film, là où Totalement. Le 4 se foire par rapport à ça. Le fait qu'ils assument dès le début cette fameuse séquence rajeunie, où la première apparition, c'est un gros plan sur sa gueule rajeunie, c'est intéressant qu'ils l'assument, et surtout que ça devienne vraiment un des sujets du film... le passéisme, la technologie, etc.
Mais alors moi justement je trouve ça un petit peu lourd, encore une fois j'aime le 5 et voilà, mais c'est vrai que comme le disait Antoine, c'est toujours hyper important dans les films de la saga, l'apparition, la première apparition dans le film d'Indiana Jones, et donc là on sent que c'est pareil, ils veulent essayer d'en faire quelque chose, il y a un suspense au départ, il y a le sac sur sa tête, tout ça, mais donc quand ils enlèvent le sac, finalement le plan est pas plus réfléchi que ça, c'est un plan bon trois quarts face, il a vraiment une lampe de poche braquée sur la figure, t'as vraiment l'impression que le film te dit regardez, on fait du rajeunissement, regardez comme c'est ouf, tu vois, et le plan dure vraiment longtemps sur son visage de manière injustifiée, et c'est vraiment, je trouve que ça brise le quatrième mur, mais d'une manière qui est assez désagréable, parce que c'est vraiment du show-off d'effets spéciaux, tu vois, donc je dis pas que c'est inintéressant, etc., mais bon, je trouve ça lourd, en fait, je trouve qu'on sort vraiment du discours sur le personnage pour faire un discours sur la technique, et je trouve ça un peu plus embêtant.
Perso, je trouve ça presque un peu, je vais dire le mot en M, attention, méta, parce que le fait que, voilà, ce film arrive après des dizaines et des dizaines de ressucés par Disney de plein de trucs qu'ils ont chopé les droits, et là, t'as vraiment ce côté, vous veniez pour voir le Indiana Jones de votre enfance, et bah, bam, dans ta gueule, gros plan direct en Dolby, vas-y, tu peux pas le... Et t'as 20 minutes d'action avec ça, en plus, sur un train, donc ça fait forcément écho à la scène du 3 d'ouverture également. Pour ensuite venir remettre ça en question dans la suite du film, je trouve ça assez malin, voire même un petit peu... un petit peu audacieux de la part de Mangold. Il y a un côté un peu...
Pour moi, c'est totalement ça. Cette mélancolie qu'on évoquait, c'est, je pense, c'est la dure réalisation que tu ne peux plus faire Indiana Jones si ce n'est avec justement ces outils modernes du numérique, mais qu'il y a une forme de nécromancie là-dedans qui, moi, me fascine pas mal. Et c'est à la fois l'extrême maladresse du film qui, en plus, je pense, va technologiquement vieillir limite pire que le 4 d'ici quelques années. Enfin, si d'ici que le de-aging et le deepfake se perfectionnent d'ici quelques années, ce qui sera sans doute le cas, je pense que là, il y a quand même des passages où dès que tu as une expression faciale un peu complexe sur le visage d'Harrison Ford dans la scène de flashback, c'est un peu compliqué. Tu sens qu'il fait tout de manière assez maligne pour faire ça de nuit, en mettant beaucoup d'ombre pour cacher au moins la moitié de son visage, de faire en sorte que jamais tout ne soit très lisible, à part sur ce premier plan avec cette lampe torche braquée sur sa gueule. Le reste du temps, il fait en sorte que jamais tu vois trop tout pour que ça soit un peu plus subtil. Mais en même temps, c'est à la fois, je trouve, la beauté de te dire tu n'as que ces outils-là très artificiels pour refléter ce temps passé qui n'existe plus. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de te dire, oula, il y a des moments où... Parce que, par exemple, sur la scène de la parade, la séquence en elle-même est super fun et très intéressante, mais il y a vraiment des plans quand il est sur le cheval où tu vois bien que c'est une doublure numérique avec le visage d'Harrison Ford dessus, qui est pas toujours super bien fait d'ailleurs, et tu fais, oh là, c'est dur. Et pareil pour la scène sous-marine, moi, c'est vraiment ma grosse déception dans le film. J'adore ça, je me suis dit, putain, ils me font une Tintin, ça va être trop cool. Et je trouve ça assez brouillon, surtout passé Avatar 2. Enfin, là, tu vois, t'es dans un truc...
Fallait qu'il casse son obsession.
Ah, fallait que je casse Avatar 2. Mais surtout, en plus, c'est très sombre. Enfin, tu sais, il joue dans une forme de réalisme, mais d'un autre côté, t'as les points de la lampe torche, les bulles, les murennes. Donc, vite, t'es un peu paumé et je trouve l'effet un peu décevant.
Mais alors, moi, j'adore la première séquence, justement. Alors, mis à part le fait que je suis un peu flippé de toutes ces histoires de de-aging et tout, et que c'est vraiment pas mon trip, et que là, voilà, je trouve ça lourd dans ce film. J'aime beaucoup la première séquence sur le train, je la trouve vachement fun, je la trouve hyper réussie et tout. Par contre, justement, ce que je trouve dommage, en fait, c'est de se sentir obligé de passer par là pour rappeler les fans, rappeler la nostalgie, alors que justement tout le reste du film, c'est assumer que Indiana Jones a maintenant l'âge qu'il a et qu'on l'écrit comme un papy et que en fait on ose en faire un héros alors qu'on n'a jamais de héros de cet âge-là au cinéma, tu vois, dans les blockbusters hollywoodiens, et que vraiment la conclusion du film, en plus, c'est bon, maintenant on accepte d'être vieux, on accepte d'avoir une vie de vieux, et ça peut être beau aussi, tu vois. Et du coup, je trouve que, tu vois, il y a un manque de cohérence par rapport à ça, et que là, je trouve qu'on sent que vraiment ils sont trop forcés par la mode technologique du moment. Moi, ça m'embête un peu.
Ouais, après je trouve que je trouve un peu sévère sur le rendu. Je vois les défauts aussi, mais je trouve ça beaucoup plus beau que sur The Irishman, par exemple. Et surtout, je pense qu'il faut pas oublier qu'on l'a tous vu ici en projection au Dolby Beaugrenelle. Je veux dire, c'est vraiment les meilleures conditions de projection, donc forcément le gros plan sur la gueule, on l'a bien vu, quoi. Et que plus tard, quand il sera surtout vu
sur les téléphones, dans le métro le matin, voilà. Ça va être
sur les frigos connectés. non, mais c'est vrai, tu vois, je pense vraiment que... Je pense pas que ça va plus mal vieillir que le 4, qui a vraiment vieilli sur certains points. Quand
franchement, je demande à voir quand même. Enfin, moi, tu vois, c'est typiquement le genre de film. Je me dis, dans 10 ans, si je me le remate, est-ce que je vais pas faire oui, ça va être un peu difficile. Parce que déjà, là, il y a vraiment des scènes où j'ai tiqué. Ce qui, limite, était le cas dans le 4 à l'époque où je l'avais vu déjà. Mais là, dans le 5, j'ai passé quand même plusieurs moments dans le film à me dire, il y a des moments très réussis où les doublures, tu devines qu'il y en a. Mais c'est super bien caché, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que le film a coûté la somme astronomique de quasi 300 millions de dollars. Mais il y a d'autres moments où vraiment c'est dur.
Après, c'est vrai que le défi était grand quand même, parce que je pense que d'ailleurs il me semble qu'il l'a dit en interview, Harrison Ford, il a assumé le fait que, enfin, évidemment qu'il fait plus rien de physique, il a 80 balais, c'est évident. C'est d'ailleurs, la plupart des séquences d'action, il est assis sur son tuk-tuk.
C'est ça. Il fallait y réfléchir, tu vois. Et voilà. Je trouve que le film trouve l'équilibre entre ne jamais perdre la course-poursuite de vue, ce qui d'ailleurs est un peu le souci aussi, c'est que finalement, est-ce que le film avait tant besoin d'être une méga course-poursuite de 2 heures? Pas forcément. Et t'es obligé de faire des scènes d'action où Harrison Ford fait pas grand chose, donc globalement il est assis sur un cheval ou sur un tuk-tuk, ou il va dans l'eau et ça s'arrête un peu là.
Finalement, il a plus qu'à aller dans Fast and Furious, faire comme Vin Diesel, tu t'assois dans ta voiture, fond vert partout, et tu fais je conduis.
Moi, je crois que la scène d'intro du 5, c'est vraiment celle que j'aime le moins de toute la saga, par contre. Celle que je trouve la plus classique, la plus carrée et la moins excitante. Même celle du 4, je la trouve beaucoup plus amusante. Le fait de retourner dans ce temple pour l'imaginaire avec toutes les caisses et tout, je trouve ça super bien. Et celle du 1, 2, 3, je la trouve très bien, même si celle du 2 est bien mieux.
En tout cas, celle du 4, je trouve que tu parlais, enfin, on parlait de Iron Sky et ce genre de merde, de trucs un peu cyniques. Et je trouve que la scène d'intro du 4, même si j'aime bien le film et j'adore cette séquence, c'est un des seuls moments où ils versent là-dedans. Enfin, il y a un moment, ils vont à cet endroit-là, et déjà tu sais que c'est la conclusion du premier. Enfin, je veux dire, c'est bon, tout le monde l'a vu, quoi.
Il remet la musique en plus.
Il remet la musique, et surtout, il faut qu'il y ait l'insert sur l'Arche de l'Alliance en visible, en gros plan. Là, on est dans du Deadpool, tu vois. Genre, c'est Et regarde.
Est-ce que c'est très différent du 3 quand ils sont sous Venise et qu'ils passent devant et qu'ils disent à Elsa « Ah, je connais » et t'entends le thème aussi?
Ouais, en vrai, j'ai trouvé ça plus subtil et plus marrant parce que pour le coup, ça caractérise un peu plus leur relation naissante « Je t'aime moi non plus », tu vois. Là où le plan dans le truc, c'est vraiment le plan gratuit, le nostalgie shot tel qu'aujourd'hui on en voit beaucoup dans plein de blockbusters, tu vois.
Pour revenir quand même un instant sur celle du 5, moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est la manière dont elle résonne avec la conclusion du film, parce que ce qui est assez marrant c'est que contrairement aux précédents films de la saga, d'abord on te présente un premier artefact qui va finalement pas être celui après lequel les personnages vont courir dans le film. Donc d'abord ça commence sur la lance qui aurait percé le flanc du Christ sur la croix, et ensuite finalement il passe sur l'espèce de cadran du coup de la destinée, et en fait du coup au départ il y a un côté un petit peu déceptif de on te fait miroiter un objet encore en rapport avec la Bible, tout ça, et puis finalement on change, et en fait à la fin en fait il y a le motif de la lance qui revient et en fait qui replace la lance telle qu'il l'imaginait en artefact religieux au départ dans son utilisation première à l'époque où elle existait, pour ensuite reparler, enfin tout le discours autour qu'il y a autour du cadran et du fait de voyager dans le temps et tout. Et en fait je trouve ça ouf, cette espèce de résonance entre l'artefact mystique et en fait le replacer dans son décor originel et dans ses circonstances, dans son environnement naturel on va dire. Et je sais pas, moi j'adore cette espèce de résonance qu'il y a entre le début et la fin, et j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement eu ça dans les précédents.
Non, mais c'est beaucoup plus superficiel, je me dis ils ont déjà été sur un train, voilà.
Aussi.
Pourquoi pas autre chose.
D'autant que la séquence du 3 pour le coup est vraiment mémorable. Ouais.
Je crois que Judith elle aime pas trop non plus. Elle aime vraiment rien.
Le 3 si.
Non, l'intro du 3. C'est pas toi qui m'as dit que tu lui as trouvé un peu.
Attends, l'intro du 3, c'est lequel déjà?
Il y a le train du cirque.
Ah oui, non.
T'as ce truc quand même. Ils ont été jusqu'à faire des animatroniques de girafes qui dépassent juste pour l'esthétique de. Il y a des girafes qui dépassent du train. C'était vraiment pas obligatoire.
Ça crée des enjeux de fou.
Une attention du détail.
Quand tu jouais à l'adaptation Lego, c'était un des meilleurs niveaux parce que justement t'avais plein d'obstacles permanents comme ça, de wagons. C'était trop bien. Je t'attendais pas à celle-là.
Cette séquence, je la trouve rigolote, mais limite en tant que court métrage. Tu vois, mais en fait un ami m'a fait remarquer, et je trouve qu'il a assez raison, que en fait elle est lourdingue dans la manière dont elle va essayer de te placer en 10 minutes de film tous les éléments qui vont faire la légende d'Indiana Jones, de pourquoi le chapeau, pourquoi le fouet, pourquoi la phobie des serpents.
Ouais, au point de justifier une cicatrice que Harrison Ford a naturellement, c'est assez marrant, enfin naturellement qu'il a eu dans sa jeunesse quoi.
Et donc là il y a un côté un peu trop cartoonesque pour le coup. En plus moi j'ai absolument rien contre River Phoenix, mais j'ai beaucoup de mal à croire que c'est Harrison Ford jeune. Alors je suis contre le de-aging en même temps. Voilà.
Une femme donc, de paradoxe.
Voilà. Donc ouais, je suis moyennement séduite par celle-là, mais en même temps c'est aussi ce qui fait le charme du 3 et qui malgré tout reste un de mes préférés, c'est que il est trop cartoonesque, un peu trop Looney Tunesque sur plein d'aspects, et en même temps bon c'est un peu marrant, c'est divertissant.
Mais pour revenir, j'ai passé un beau moment,
voilà. j'ai posé mon cerveau.
Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'artefact du 5, je pense que c'est aussi un des éléments qui moi m'intéresse le plus quand on parle d'Indiana Jones, c'est son rapport au fantastique et le choix parfois très frustrant qu'il y a à, surtout dans les premiers, à ce qu'en fait en tant que pilleur de tombe ou quelqu'un qui dit que ceci appartient à un musée, il faut ramener les choses dans les musées, il n'y a jamais une récompense matérielle du côté d'Indiana Jones. Enfin, dans le 2, il ramène la pierre. Dans le 1, l'Arche d'Alliance est bazardée dans un coin. Et dans le 3, le Graal est perdu. Donc, il y a toujours ce truc-là. Et en même temps, il y a ce truc que je trouve très beau, que le fantastique est toujours à la porte du personnage, parfois même de manière très littérale. Et en fait, il ne franchit jamais ce pas.
D'ailleurs, jusqu'au moment.
Ouais. Jusqu'au moment.
Parce que d'ailleurs, en revenant de la projo, parce qu'on est allé voir avec Judith, je me rappelle qu'on avait rigolé sur la phrase qui dit dans le 5 où Afebe le Harbri, je lui dis « Ouais, moi aussi, j'ai vu des trucs. » Et toi, tu fais « Pardon ?»
ouais.
T'as pas vu des trucs, mec.
Ah oui, quand il dit « Non, mais en fait, je crois pas à la magie. » Mais comment ça? À quel moment, mec?
Genre, t'as vu des gens, je crois qu'il cite que le temple perdu, le temple maudit, non? Il dit « Oui, moi, j'ai quand même eu... j'ai bu le sang de machin et tout. » Tu dis « Mais t'as pas fait que ça, bordel. »
T'as vu des nazis se faire désinguer par le pouvoir de Dieu.
Ouais, c'est ça. T'as vu des aliens, bordel de merde.
T'as vu un mec de 700 ans.
Mais je ne crois pas à la magie.
Mais c'est que le rapport au fantastique est intéressant parce que souvent ils se sont demandé jusqu'où ils devaient aller. Pour les suites qu'ils ont failli faire, il y avait une idée de manoir hanté en Écosse qui devait être le cœur.
Elle est pas marrante, mais ça, elle adore ça.
Oui.
Et ils voulaient en faire le cœur du deuxième. Et Spielberg a dit je viens de faire Poltergeist, donc non. Lucas a essayé de recycler ça en scène d'intro du troisième, qui était sinon l'histoire du Monkey King et qui était en gros la fontaine de jouvence avec des pêches magiques en Afrique et tout ça, avec un pygmée de 700 ans. Et c'était vraiment un espèce de demi-dieu, le Monkey King, qui ressuscitait les gens. Il y avait de la pure magie. Et ils se sont dit, ça va trop loin. on franchit un cap en termes de surnaturel, il faut toujours rester à une bonne limite, et en même temps tous les films sont surnaturels et vraiment totalement assumés. Et moi ce que je trouve intéressant justement, à partir du 4 je commence à décrocher, parce que comme tu disais Antoine, ils sont toujours à la frontière, et ce que je trouve très beau dans le premier, c'est qu'ils doivent fermer les yeux pour survivre. En fait, il faut pas. Il y a un truc qui dépasse l'humanité et tu ne dois pas le voir. Et si t'es sage, si t'es un bon humain, tu fermes les yeux devant un truc divin,
pas
un truc monstrueux. Voilà.
Le fantastique est contenu, je trouve, à chaque fois. Genre, oui. Que ce soit spatialement ou dans les intentions, oui. Il faut qu'il soit contenu à un micro-espace pour qu'il reste, en fait, littéralement la définition du fantastique, ouais. C'est-à-dire un petit bout de surnaturel dans un environnement
comme
naturel.
Comme l'Arche d'Alliance, que tu refermes, sinon c'est un pouvoir trop grand. Dans le exactement. Deuxième, c'est le Temple Maudit, c'est souterrain, la magie noire est omniprésente, mais elle est que là, par chance pour l'humanité. Je trouve que dans le troisième, je suis d'accord avec Judith, le fait de montrer le chevalier, pour moi, c'est too much. Parce que déjà, d'aller dans cet endroit, c'est excitant, il y a beaucoup de choses surnaturelles, c'est quand même, tu franchis un cap, mais le fait de voir ce vieillard, je trouve que ça devient un peu kitsch. Et le fait de toucher à l'immortalité, je trouve que c'est pas... trop, mais c'est déjà, tu te dis, putain, on n'est pas loin du seuil ultime, même si heureusement c'est juste dans cet endroit que tu es immortel, c'est ce qui sert bien la saga après.
Alors moi j'avoue que là, toute la fin du 3, c'est vraiment une de mes scènes préférées, parce que pour moi c'est vraiment la note d'intention de la saga par rapport à ça, cette histoire d'épreuve, parce qu'en fait c'est progressif. Au début c'est purement scientifique, les épreuves qui doivent passer, enfin ils déconstruisent le mythe du la maxime, l'énigme, etc., par un truc scientifique, il faut s'agenouiller, machin. Ensuite, c'est carrément cinématographique, le trick, en fait, parce que c'est une illusion d'optique qui n'a aucun sens si tu la regardes mais d'un point de vue...
pas de Dieu.
Voilà, c'est ça. Mais plus, c'est ça.
Quoi, j'ai envie de dire, tu veux pas t'accroupir et poser ta main plutôt que de mettre ton pied?
Oui, non, mais de toute façon, tu réfléchis 5 secondes, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est ça, en fait, c'est l'énigme n'est plus juste scientifique, mais carrément cinématographique. Donc, on passe un palier dans l'abstraction, on va dire. Et à la fin, au-delà des 3 épreuves, bah en fait, il existe, il est là, le fantastique est là, quoi. Et concrètement, moi, j'aime bien l'idée qu'il y a un vieux mec qui soit un peu vieux, justement, qui n'arrive pas à lever son épée, etc. C'est concrètement du fantastique. Il y a concrètement le Graal qui concrètement permet de te donner la vie éternelle. Et sauf que, bah voilà, c'est contenu et c'est un truc. Je trouve que c'est vraiment tout Indiana Jones est là, en fait. Tu passes ces étapes-là et au-delà de ça, même presque tout le cinéma de Spielberg est là, quoi. C'est vraiment. Il faut y croire, mais si t'y crois sans savoir que c'est un truc fantastique, en fait, et bah ça va forcément se retourner contre toi. Et passer toutes ces étapes, c'est vraiment pour moi ce qui fait que j'aime son cinéma, en tout cas.
Mais c'est ça, pour moi, c'est aussi ce qui a fait qu'on aime autant ces films-là en tant que film d'imaginaire, mais aussi dans la filmo de Spielberg, c'est qu'effectivement, c'est des films qui, de toute façon, ont comme question centrale la croyance qu'on a dans l'imaginaire. Et la façon qu'a Spielberg de mettre en scène son amour, justement, de ce cinéma d'aventure, de ses sérioles d'avant. Et c'est aussi pour ça que. Cette frustration qu'il peut y avoir de cette manière de contenir le fantastique, surtout avec le 3 et le 4, pour le coup, je trouve ça vraiment courageux. Alors, spoilers, que dans le 5, ils choisissent de franchir ce portail et que du coup, donc, tu aies cette faille spatio-temporelle qui les ramène dans le passé. D'autant que finalement, ce dont tout le 5 parle, c'est de cette frustration qu'a Indiana Jones de s'être dit « J'ai fait quoi de ma vie, en fait ?» à courir après... justement, de courir après l'histoire pour finalement toujours en avoir une bribe, mais qui lui échappe toujours, en fait. Tu vois, le Graal lui échappe, la pierre, il est obligé de la ramener. C'est-à-dire, il parle, tu sais, tout le film de fortune et gloire, mais finalement, il l'a pas, en fait, cette fortune et cette gloire. Et c'est nécessaire, d'ailleurs, qu'il abandonne ça toujours derrière et il l'accepte. Mais là, dans le 5, il y a ce truc où soudainement, ce hors-champ qui a toujours été l'histoire dont il perçoit toujours une petite bribe, que soudainement, enfin, il a l'occasion de vraiment interagir avec, et que ce soit donc à travers cette rencontre avec Archimède et tout ça. Je trouve que c'est une idée qui était franchement casse-gueule sur le papier, et je pense que c'est un des éléments qui va clairement le diviser le plus autour du film. Mais je trouve ça franchement très beau que... pour conclure la saga, ils aient choisi de franchir ce pas-là, d'amener la saga dans cette autre direction.
Après, ça reste contenu, parce que le twist étant que c'est un cercle... Enfin, en fait, ils vont pas vraiment dans le temps, ils reviennent à une époque précise pour machin, et je trouve ça assez malin. Ouais,
c'est contenu, mais tu passes quand même de longues minutes dans...
Bien évidemment, il y a littéralement le fait qu'ils passent derrière... Ne dis pas, ne dis pas ce mot. Il est dangereux. tu passes littéralement le portail pour arriver... Donc oui, effectivement, il y a ce truc-là... que moi aussi je trouve ça très malin, mais aussi contenu dans le sens où je trouve que, comme tu dis, c'est hyper casse-gueule, mais ça marche parce que c'est très bien mis en scène, et j'aime beaucoup l'idée de laisser la caméra dans l'avion tout le temps où il survole le truc, pour rester du point de vue des gens technologiques qui ont un point de vue sur un truc fantastique, ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien, je trouve.
Et en même temps, il y croit. Enfin, tu vois, là, pour le coup, ça renvoie aussi à ce que Spielberg fait, c'est que là, Mangold y croit à donf, et quand il te fait, enfin du coup c'est vraiment une scène de péplum sur la fin avec avec Archimède qui débarque et tout ça, et tu te dis ok, il y va quoi. Et vraiment sur le moment je me suis dit mais jusqu'où il va aller avec ce concept là et cette idée de séquence, et à la fin vraiment il va à donf, il te filme les mecs en toche. C'est ça qui manquait, Archimède et les dinosaures.
Non, moi vraiment c'est à ce moment là que je décroche totalement. Je comprends pourquoi l'évolution vous intéresse, mais le fait de... C'est le portail qu'on voyait dans le 4 avec les êtres interdimensionnels qui ne sont pas des aliens, copyright George Lucas, c'est le portail qui ne franchissait pas. Et déjà au seuil du portail, je trouvais que c'était trop de voir toutes les couleurs, le tourbillon autour, le fait que ça emporte des choses mais pas d'autres. Et dans le 5e, le fait de plonger de l'autre côté, c'est exactement la limite que je ne veux pas voir et que j'ai pas besoin de voir pour que mon imaginaire prenne le relais et que je vois pas le cinéma. Et moi je trouve que la séquence d'Archimède est super laide et je n'y crois pas du tout. Et c'est pas, peu importe si James Mangold y croit et son équipe, hein, j'espère pour eux, mais moi j'y crois pas du tout. Ça dure beaucoup trop longtemps, je me dis mais jusqu'où va aller, ça dure un long moment. Et quand il est posé devant Archimède devant le, sur la pelouse de merde là et qu'il dit oh laisse-moi là Phoebe, je... mais je suis tellement plus là, mais vraiment moi j'ai complètement déserté quoi.
Tu ne crois pas qu'on puisse remonter le temps avec un cadran magique?
Déçu. Non mais alors moi je suis un peu partagée, enfin, sur cette séquence. Moi j'aime beaucoup l'idée, après je suis d'accord pour dire que dans la réalisation c'est pas très beau et que Archimède il a vraiment l'air du je sais pas du Kidam, bah,
d'un autre intermittent en peine comme le chevalier du 3, hein, vraiment.
Non mais vraiment je trouve que voilà, ils ont du mal à mettre en scène leur personnage historique, je trouve, et en même temps ça va avec l'idée que justement personnage historique ou pas, c'est un mec comme un autre, tu vois, c'est jamais qu'un humain, donc en même temps voilà, ça a une certaine logique. C'est
je
pas
pense
très
qu'avec
beau.
Un caméo de George Clooney ça aurait mieux marché.
Sur
ça qui voilà.
Ou de Henri Cavill sans moustache.
Ça dresse le parallèle avec ce que tu disais sur Indy qui finalement assume désormais d'être un vieux comme tout le monde en fait, genre une vieille personne comme tout le monde. Il y a aussi cette idée, enfin, il y a le parallèle qui se fait entre les deux, de Archimède c'est pas juste un nom que tu dis dans les bouquins ou qui est un truc de légende, c'est un mec comme tout le monde aussi.
Bah oui,
j'aime bien.
Mais c'est ça que j'aime beaucoup, et surtout qu'en plus à ce stade dans la saga, Indiana Jones pour nous public dans notre imaginaire c'est aussi devenu une légende historique, etc. Et je trouve ça, j'ai beau trouver la séquence pas très belle, je suis vraiment emportée par la poésie de l'idée que lui en fait il sent qu'il est dépassé dans le monde actuel dans lequel il vit, et que du coup bah en fait c'est là qu'il est, c'est à cette époque là qu'il est vraiment censé appartenir, et que maintenant il peut vraiment intégrer l'histoire avec un grand H pour de vrai et terminer là après ce après quoi il a couru toute sa vie. Et donc je trouve ça très très beau, et je trouve ça encore plus beau que finalement on lui dise mais en fait non, c'est beau aussi en fait de vivre à ton époque, même si t'es pas un héros, même si t'es pas Archimède. Et
tu veux dire quand on l'assomme et qu'on le ramène dans le présent, c'est très beau.
Bah,
c'est
oui, non mais oui, en vrai
je suis d'accord pour le
ouais,
coup.
Ouais. Et voilà, esthétiquement parlant je suis d'accord que c'est pas génial, mais dans l'idée, enfin moi ça me conquit vraiment.
Et ça amène une autre question que je trouve assez belle, c'est que dans les premiers, t'as ce jeu avec l'occulte et l'imaginaire collectif sur notamment le fait qu'Hitler aimait beaucoup, enfin voulait développer l'armée nazie avec l'occulte, ce genre de choses-là, mais ça amène toujours cette idée qu'Indiana Jones se bat aussi contre le temps et contre son époque et contre les guerres de son époque, mais donc aussi contre le problème potentiel de l'Uchronie et donc de la réécriture de l'histoire. Et en fait je trouve que là Indiana Jones 5, il y a un truc passionnant, c'est qu'avec ces personnages de nazis dans les années 60 qui espèrent faire revenir le Reich, t'as ce truc du potentiel révisionnisme et de ces mecs qui du coup littéralement disent là on va utiliser l'objet magique pour réécrire l'histoire, et face au piège du monde actuel qui ne regarde que vers l'avenir et ne regarde que vers la mission Apollo, vers le fantasme de cette Amérique du futur, entre guillemets, et qui en oublie le passé, qui en oublie l'histoire, alors que lui, c'est quoi en fait Indiana Jones? C'est, derrière la légende, c'est le gardien de l'histoire.
C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais ce truc sur le révisionnisme, j'ai vraiment du mal à croire que c'est pas un truc qui parle de notre époque, pour le coup. Et c'est peut-être une des seules fois où il y a vraiment quelque chose de politique dans... Indiana Jones, au-delà du fait que c'est des méchants nazis et des fois quelques petites références à la colonisation, enfin je trouve que dans le 2 c'est mine de rien assez malin que lui il travaille pour le village et que les méchants ils soient dans leur origin story de méchants entre guillemets, ils accusent les Anglais de leur avoir volé des trucs et tout, enfin ça reste un peu du ouais on est des colonialistes mais pas trop, enfin, tu sens qu'ils marchent sur des œufs, alors que pour le coup dans le 5 je trouve qu'il y a vraiment, c'est léger, mais c'est pas inintéressant le truc sur le révisionnisme aujourd'hui.
En fait, moi, ce qui me touche dans ces films-là, sur le fantastique, c'est l'humilité qu'on t'explique que l'humain doit avoir face à ça et que les méchants n'ont pas en voulant contrôler un truc qui les dépasse. Et c'est ça qui, pour moi, rend l'aventure toujours très belle et poétique, justement, c'est qu'à chaque fois, il touche du bout des doigts et le truc le dépasse. Le truc a de le consumer dans le deuxième. Il y a toujours un truc de Icare doit pas aller trop près du soleil. Indiana Jones doit pas aller trop près des trucs qui le dépassent. Il doit laisser vraiment les objets. Bon, il doit les voler, les ramener en Amérique, peut-être, mais il doit ne pas affronter un truc qui nous dépasse. C'est ça que je trouve toujours très dans la science-fiction, dans le fantastique. Et plus la saga avance, notamment avec le 4, et pire c'est. Et dans le 5e, je trouve que, bon, ok, c'est audacieux, mais je trouve ça vraiment une erreur de goût d'aller aussi loin, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée que justement, parce qu'il soit à la limite de l'hubris, tu vois, et que finalement, on le ramène.
Mais c'est ça. Il y a une satisfaction de quelque chose auquel il n'a jamais eu droit avant, mais il faut quand même tracer la limite. Et la limite, c'est non, il ne peut pas rester là, il faut qu'il revienne.
J'aime bien l'idée qu'avant, on prenne vraiment le temps de te le présenter comme quelqu'un qui n'appartient plus à son époque, tu vois, parce qu'il y a vraiment une logique, du coup, dans cette envie de revenir dans le passé et d'y vivre.
Encore une fois, je trouve que c'est une bonne réponse. Enfin, c'est assez malin par rapport à la perception qu'on a des trucs de Disney aujourd'hui, où eux, techniquement, enfin dans la logique du blockbuster hollywoodien actuel, faudrait que tous les personnages soient des gens qui restent dans une forme d'époque fantasmée, dans un passé, etc. Et qu'ils n'oseront jamais accepter que leur héros, il puisse vieillir et ne plus exister. Enfin, Tom Cruise dans Mission Impossible, tu vois. Enfin, c'est un mec qui refuse le concept qu'il puisse vieillir.
Han Solo dans Le Réveil de la Force. Hein,
c'est ça.
Il a vieilli, mais il en est au même stade qu'avant.
Exactement, le parallèle avec la technologie du rajeunissement qui pose des tas de problèmes, parce que du coup, est-ce que tu fais revenir des gens qui sont morts, etc. C'est eux aussi qui avaient fait revenir Peter Cushing dans Rogue One, ce que moi je trouve assez dégueulasse, voilà.
Oui.
Et le débat est ouvert.
En parlant
de gens
qui reviennent d'outre-tombe dans Flash, Christopher Reeve aussi, c'est un peu.
Oui, voilà, ce
et
genre
pas
de
que
truc.
Lui, ouais.
Puis, oui, d'ailleurs, déjà, j'avais parlé aussi d'un des acteurs qui joue Superman et qui est soupçonné de s'être suicidé à cause de ça. Et les mecs, ils le font revivre même dans la mort. Il a pas le repos de ce rôle-là, quoi. Et du coup, je trouve que le film est assez malin par rapport à ça. De dire en fait laisser les acteurs vieillir, laisser les acteurs mourir, c'est possible en fait, voilà, ça va arriver, et en fait c'est pas grave, on continuera à regarder Indiana Jones, ça va être vachement bien, on n'a pas besoin de revenir dans le passé et de s'y complaire comme aurait pu le faire le personnage Harrison Ford.
Mais ce qui renvoie à un truc qu'on n'a pas forcément trop dit, mais c'est à quel point Harrison Ford dès le premier s'était quand même énormément impliqué dans l'écriture dès qu'il était là, et à quel point c'est vraiment lui qui mine de rien, au même titre que Spielberg ou Lucas, chapeaute énormément. Alors quand tu regardes les making of du 4 notamment, il justifie beaucoup en disant que Ford lui-même voulait vraiment faire un quatrième film, qu'il avait très envie d'y revenir, là où Spielberg était justement à dire très souvent non, moi j'ai pas trop, moi j'ai fait le 3, il y a le plan avec le coucher de soleil, c'est bon, c'est conclu, c'est terminé. Mais en fait, Ford a vraiment cette envie-là, et je pense qu'il aime plus ce personnage que n'importe quel autre dans sa carrière, à commencer par Han Solo d'ailleurs.
Oh, ça se voit très bien.
Ça se voit pas mal en promo. Mais là, sur le 5, c'est vraiment lui aussi qui avait cette motivation-là de se dire si c'est la dernière fois qu'on peut le faire, faisons-le, mais assumons aussi derrière qu'il y a effectivement, si on fait revenir le personnage, c'est en prenant en compte cette vieillesse-là. Et c'est pour ça que même si plus tard il réécrive Indiana Jones autrement, je comprends là qu'il y avait aussi ce fétichisme de se dire il faut le rajeunir numériquement, il faut prendre en compte ce temps passé, parce que Indiana Jones, c'est Harrison Ford.
C'est pas lui qui avait d'ailleurs accepté Star Wars 7 à condition qu'il le bute, non? C'est pas ça?
Oui.
Ouais, bah voilà.
Parce que comme il l'avait pas fait dans Le Retour du Jedi, il voulait le faire.
Mine de rien, c'est assez cohérent avec cette approche-là. Bon, ça et le fait qu'en interview, quand on lui demande question de fan, genre, est-ce que tu penses vraiment que les Ewoks, machin truc, il fait, c'est quoi des Ewoks? Parce qu'il s'en fout.
Quel troll.
franchement, c'est pas loin des fois. Mais bon, moi, je le respecte beaucoup pour ça, pour être honnête. Mais je trouve que c'est très cohérent, du coup, avec ce que ça raconte du 5 et pourquoi il s'est autant investi de ce que ça raconte de sa propre vieillesse, en fait.
Ouais. Et moi, je trouve que, tu vois, tous les aspects fantastiques qu'il y a dans tous les Indiana Jones et donc l'évolution dont on parlait, ça contribue, enfin, ça converge vers un même message qui est, je pense, que, en fait, le fantastique, qu'on y croit ou pas, le surnaturel, qu'on y croit ou pas, c'est l'idée qu'en fait, ça change rien à nos vies, tu vois. Ça reste un objet de fascination qu'on peut toucher du doigt, dans lequel on peut mettre un pied, mais qu'au final, nous, à notre mesure d'humain, ce qu'on peut réaliser, c'est nos vies d'humains, tu vois. On peut en faire des choses formidables, mais voilà, le fantastique, finalement, qu'il y ait des chevaliers qui vivent 700 ans, qu'on puisse voyager dans le temps, qu'il y ait des extraterrestres, en fait, ça n'a jamais d'impact sur l'importance de notre quotidien et ce qu'on peut faire de bien dans notre quotidien, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a un message très humble comme ça qui justifie le fait que le film, enfin, aucun des Indiana Jones ne bascule 100% dans le fantastique à chaque fois. Et voilà, le fantastique reste un objet de fascination, mais c'est en fait pas le centre de nos vies, tu vois.
Ce qui renvoie aussi au film en eux-mêmes et à cette humilité de base de faire un petit film B qui a clairement dépassé cette condition-là. Et de vouloir faire avant tout un pur divertissement d'été pour toute la famille, et que c'est aussi ça que représente Indiana Jones, c'est la saga parfaite de film familial que tu te transmets de génération en génération et qu'on continue de regarder avec grand plaisir.
Et que tu montres à tes enfants un peu trop jeunes pour les traumatiser.
Exactement.
Mais est-ce qu'on serait là si on s'était pas fait traumatiser par Indiana Jones et compagnie quand on était plus jeune? Ou Gremlins, par exemple. Voilà.
Moi, je sais pas à quel point j'étais traumatisé par Indiana Jones, j'ai pas de souvenirs.
Oui, enfin, je veux dire.
Alien,
t'as
ou
pas, Indiana Jones. Y a pas genre, un film que t'as vu trop jeune et.
Alien 2, oui.
Ok, bon, c'est pas pour les enfants, mais.
Ça dépend. Tout est question de subjectivité.
Arrête de juger l'enfance des autres, hein, s'il te plaît, Mathieu.
Ça peut faire un bon sujet d'article, hein, justement. Les traumas d'Indiana Jones.
Bah, on l'a fait. Ah, pas Indiana Jones, mais on avait fait à une époque à Halloween, on avait fait une vidéo. Bon, c'était longtemps maintenant. Sur les scènes qui nous avaient traumatisés quand on était gosses, je crois.
Ah, ouais,
j'avais cité King Kong d'ailleurs, du coup.
Ah, bah, carrément.
Moi, j'ai voilà. dû parler de signes. Peut-être.
Oui, t'as parlé de signes, je crois. T'as parlé de la scène de l'anniversaire.
Ouais.
Enfin, pour recentrer un peu, là, du coup, sur Indiana Jones, il y a quand même plein de choses à faire. Donc, je pense que déjà, bon, au vu de ce qu'on en a dit, je pense qu'il y a quand même une petite réhabilitation du 4 qui est envisageable.
Ah ouais, j'ai déjà fait un article dessus.
Mais je peux en faire une vidéo.
Si tu crois faire mieux que moi, vas-y.
On comparera.
On verra si tu fais mieux qu'avec ta vidéo IT de merde.
Pour oh. moi, je ferais bien un truc, genre vraiment une vidéo sur les personnages féminins. sur le fait que, aussi, le personnage de Marion, au départ, j'adore la faille qu'elle met en avant du personnage, qu'en fait, il a abusé d'elle quand il était prof. Voilà, il y a tout un pan d'Indiana Jones dont on ne parle pas assez.
Sachant qu'au départ, dans le scénario, c'était pire parce qu'elle devait avoir 13 ans au moment de leur relation.
Quel
et je crois que c'est Spielberg qui a dit non, pas 13 ans, s'il te plaît. Alors.
À l'époque, ça devait être réalisé par Luc Besson, d'ailleurs.
Bref.
Bref. Bon, sinon, on peut faire un truc sur le rapport à la technologie avec la sortie du nouveau film. Ça, je pense que c'est forcément toujours intéressant pour.
Moi, j'ai envie de faire un truc sur la fin aussi, le rapport au fantastique, pour dire que vous avez tort.
Et on reviendra en commentaire pour dire que c'est toi qui as tort.
Comme d'habitude. Ouais.
Ok, voilà. Un jeu.
Et qu'on fait trop d'articles.
Bon, et sinon, bah, je sais pas, on peut peut-être en faire un podcast.
Oh, oui, c'est bien un podcast.
Oui, bon, ça fait 10 ans qu'on en parle, donc on verra si on le fait un jour, mais ouais.
On le fera un jour. On peut y arriver.
Et pour ça, il faudrait bien évidemment que les gens pensent à mettre 5 étoiles, à mettre des commentaires et à s'abonner au podcast sur les diverses plateformes disponibles.
Évidemment.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.